Salut Blockbuster, merci pour l'épisode sur les chevaux. Vraiment, ça m'a permis de revoir cette catégorie d'un autre œil. Mais en vrai, je me suis maté Gundam The Witch from Mercury et j'ai été surpris déjà d'adorer ça et de voir qu'en fait c'était repris sur des codes du shoujo. Donc je me dis que un épisode sur Gundam, ça serait vraiment pas déconnant. Merci.
Salut Frédéric, c'était pour te dire qu'on avait bien entendu que tu allais continuer sur le shoujo manga, donc on attend de plus de voir développer Clamp et la suite. Et aussi on espère un épisode dédié au yaoi et au yuri.
Bonjour à toute l'équipe de Blockbuster. Je viens d'écouter l'émission sur le shoujo, j'ai adoré. On sent que les invités sont des passionnés, du coup l'émission est rythmée et les 1h30 sont passées très vite. Voilà, merci beaucoup.
To be or not to be, not to be.
Est-ce qu'un arbre qui tombe dans la forêt fait du bruit si personne n'est là pour l'entendre? Alors je sais que les plus scientifiques parmi vous vont immédiatement dire « Mais bien sûr que oui, espèce d'abruti !» Mais laissez-moi vous poser une autre question. Est-ce qu'on peut se vanter d'avoir un bon niveau de jeu vidéo si personne n'est jamais là pour le voir? Parce que moi, en vrai, je suis un super joueur en mode entraînement. Je suis un peu le Donnie Yen des jeux vidéo, mais uniquement console éteinte. Les jeux de combat, plus que n'importe quel autre, nécessitent d'avoir un savoir-faire. Il y a une grande variété de personnages, des centaines de combinaisons et de mécaniques de jeu à assimiler. Et très souvent, on passe des heures dans le mode entraînement à mémoriser un combo absolument démentiel contre un mannequin passif. On s'entraîne à le faire, à le refaire, jusqu'à un point où ça devient une seconde nature. Le personnage, on le connaît par cœur, on se sent prêt. Tous les voyants sont au vert. On peut enfin jouer en ligne et montrer aux joueurs et joueuses du monde entier le fruit de notre entraînement. Et là, en général, on se fait étaler en 2 minutes par un joueur avec un pseudo à la con, Eren 54 ou un truc du genre, et t'as juste envie de lui dire « Non, non, en vrai, je suis bon, hein. Je suis juste un arbre très silencieux en public. »
Luce di Sirio, risplendi al massimo.
Si Minecraft, Fortnite, Call of Duty et autres FIFA squattent inlassablement la tête des classements mondiaux de jeux vidéo, les jeux de combat sont eux les vrais marqueurs d'une nouvelle génération de consoles. Chaque époque a eu droit à son Street Fighter, à son Mortal Kombat. Le jeu vidéo Tekken 8 du studio Bandai Namco a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en un mois. Le gagnant d'une compétition d'e-sport sur Street Fighter 6 a remporté 1 million de dollars. Des chiffres qui démontrent la ferveur et la passion qui entourent ces anciennes franchises, véritables hôtes à la bonne vieille patate de forain. Tekken 8, Street Fighter 6, Mortal Kombat 12, sobrement réintitulé Mortal Kombat 1 pour cacher son âge, mais aussi Guilty Gear Strive, Grand Blue Fantasy Rising ou encore Dragon Ball Sparking annoncé. Autant de titres qui témoignent de la vivacité des jeux de combat. Et pour en parler avec moi, j'ai Kayane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes joueuse et streameuse de jeux de combat, animatrice sur Game One et organisatrice d'événements.
Tout à fait.
Avec nous également Reza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes joueur et streameur de jeux de combat.
C'est ça, organisateur d'événements aussi.
Avec nous également Guillaume Asenka Dorisson, vous êtes chef de projet du Red Bull Comité, commission officielle de Street Fighter 6. Bonjour.
Enchanté, bonjour.
Et évidemment, Olivier Bénis.
Oui, bonjour. Moi, je suis un peu comme vous, moi je suis l'arbre qui tombe très silencieusement quand je suis face à un adversaire.
Mais oui, mais voilà, un jour on reconnaîtra notre valeur.
Mais oui.
Si seulement le mannequin pouvait parler. Vous êtes journaliste à France Inter et votre chronique La Faute aux jeux vidéo est à retrouver en podcast sur l'application Radio France.
Ce n'est pas le moment de sourire.
Si, quand même. C'est pas tous les jours que j'affronte un dieu du feu.
Fight.
Igli.
Finish him.
Ça va chier. Oh. Activation Unsonné. La paix, enfin.
Fatality. Peacemaker wins.
Vous venez d'entendre la bande-annonce du DLC de Mortal Kombat 1 sorti il y a peu avec Peacemaker, et je vous conseille de le faire en VO parce que c'est John Cena lui-même qui joue Peacemaker dans l'univers du DCU, feu DCU ou prochain, je ne sais plus, c'est difficile à suivre, mais toujours est-il que il vient d'arriver dans Mortal Kombat. Je crois qu'il sera disponible dès aujourd'hui, si je ne m'abuse, pour ceux qui l'ont précommandé. Alors, tout d'abord, faisons un petit point d'étape sur la scène du jeu de combat en 2024. Kayane, entre Tekken 8, Street Fighter 6, Mortal Kombat, Granblue Fantasy, tout XKO et Dragon Ball Sparking qui ont été annoncés, est-ce qu'on assiste à une renaissance du genre sur console ?
C'est vrai qu'actuellement, c'est vraiment l'âge d'or des jeux de combat. Déjà d'avoir Street Fighter 6, Tekken 8 et Mortal Kombat 1 qui sortent quasiment en même temps, alors que c'est vraiment les jeux de combat les plus joués. Ça fait vraiment plaisir parce que chaque communauté de joueurs a son jeu. Et quand on assiste à des tournois, parce qu'on a des joueurs, mais on a aussi beaucoup de spectateurs, on peut voir les jeux vraiment current generation. Et c'est vraiment bien, parce que quand on regarde un tournoi, c'est un peu dommage quand tu assistes à du Street Fighter 6, mais que t'as du Tekken 7 derrière. Donc maintenant que tout est sorti, je pense que les viewers, ils sont vraiment à fond pour regarder ça. Et en tant que joueur aussi, on sait plus où donner de la tête, parce que personnellement, je joue un peu à tout. Je joue à Street Fighter, je joue à Tekken. Mortal Kombat, c'est plus pour l'histoire, mais j'ai quand même beaucoup apprécié y jouer. Mais il faut faire un choix sur cette panoplie de jeux. Mais au moins, ça touche à tout le monde.
Et justement, pour approfondir un personnage, parce que les mécaniques de jeu, elles sont différentes suivant le jeu, bah ça demande du temps. Et donc, quand t'as trois hits qui sortent comme ça, en même temps, avoir un très bon niveau sur Tekken 8, ça garantit pas d'avoir un très très bon niveau sur Street Fighter 6.
Ah non, ça garantit rien du tout, surtout que Tekken 8, c'est un jeu de combat 3D, donc on a en trois dimensions. On a aussi 32 personnages dès le lancement du jeu, alors que Street Fighter 6, on a beaucoup moins de personnages. Je pense qu'actuellement, on est entre 18 et 19 personnages. Donc, quand on a dans un jeu de combat 3D entre 100 à 200 coups par personnage à apprendre, c'est énorme quand on multiplie ça par 32 persos. Donc, ouais, il y a toute une dimension différente d'apprentissage quand on joue d'un jeu à l'autre. Mais ça n'empêche que chacun a ses préférences. Il y a des joueurs de jeux de combat 2D qui vont rester dessus et des joueurs de jeux de combat 3D qui vont rester sur la 3D. Personnellement, j'ai toujours été plus jeu 3D comme Soul Calibur et Tekken parce qu'il y a une grande créativité, une grande diversité dans les coups. Il y a plusieurs façons d'ouvrir la garde de l'adversaire. On a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est aussi ça le plaisir de jouer. C'est cet apprentissage qui est long, continue, et en même temps ces jeux de combat vont durer 7 ans avant la prochaine génération.
J'invite les auditeurs et auditrices à regarder des vidéos de Kayane jongler avec ses adversaires et après s'excuser très poliment après les avoir humiliés, ce qui est vraiment le finish him de Kayane. Hein. C'est, oh, je suis désolé, je n'avais pas compris, t'étais petit mauvais.
Il arrive plein de moments assez loufoques quand on joue un jeu de combat, et notamment il y a un moment donné où j'ai terminé l'adversaire, enfin je pensais l'avoir terminé avec la super, donc je consultais mon téléphone pour parler d'une mécanique de jeu et je racontais ma vie aux viewers parce que j'étais en stream et il restait un pixel de vie à l'adversaire, et au moment où je m'en rends compte, bah je lâche mon téléphone et j'appuie la première touche qui me vient et ça donne une grosse claque à mon adversaire. Du coup je me suis excusée en disant je suis désolée, je pensais pas faire ça, surtout que ça peut paraître comme un manque de respect, tu vois, de laisser l'adversaire se relever, d'attendre sans mettre sa garde. L'autre, il pensait vraiment pouvoir me tuer, et puis en fait, non, il a eu une grosse tarte à la place.
Vous pouvez retrouver ce joueur en psychothérapie un certain temps. Alors, on va commencer par évoquer Tekken 8. Le jeu a été salué par la critique et par le public. Donc, je vous pose la question à vous quatre. Qu'en avez-vous pensé ? On commence par Reza.
Ouais, bah écoute, Tekken 8, pour moi, c'est tout simplement... Je pense que c'est mon jeu préféré de cette génération. Donc j'ai fait les trois sorties, j'ai beaucoup joué à Street Fighter 6, j'ai beaucoup joué à Mortal Kombat 1, j'ai fait de la compétition aussi dessus. On est encore en course pour le championnat de France d'ailleurs. Et Tekken 8, depuis la sortie, pareil, je joue qu'à ça. Je m'entraîne beaucoup avec les gros joueurs français, Exmark et compagnie. Donc pour le moment, je pense vraiment des trois jeux, c'est celui qui m'a le plus plu. Parce que les trois jeux sont arrivés avec des nouvelles mécaniques. Je pense qu'on va pas forcément rentrer dedans.
On peut.
On est arrivé avec des assises sur Mortal Kombat 1, malheureusement, qui ont eu du mal à être équilibrés. On est arrivé avec le Drive Rush sur Street Fighter 6, qui est bien, mais qui a saoulé très vite aussi pas mal de joueurs, donc qui attendent pas mal de changements dessus.
Alors qu'est-ce que le Drive Rush ?
Donc en fait, tout le système de jeu Street Fighter a été repensé autour des mécaniques de Drive. Donc c'est des barres qu'on a en début de round, qu'on va utiliser pour toutes les nouvelles mécaniques qui sont un mix de mécaniques des anciens Street Fighter et des nouveaux. Donc on va par exemple avoir le Drive Rush, ce qui nous permet d'annuler un pari pour déclencher une course dans le jeu tout simplement. Donc
alors un pari, c'est quand on arrête un coup.
Exactement. ton attaque avec deux boutons dans Street Fighter 6 par exemple, ou justement d'annuler un coup tout simplement par une course. On aura la possibilité aussi de faire par exemple un drive reversal qui nous permet de repousser l'adversaire quand on est en train de prendre des coups dans la garde, ou encore d'autres mécaniques. Et donc le drive rush, cette mécanique qui permet de courir ou de traverser l'écran très rapidement, a pu causer quelques soucis dans la communauté. Bon, je pense que ça va s'arranger. Il y a un patch qui est arrivé avec la sortie de Ed et il y aura des nouvelles choses.
Et donc, il y a un nouveau personnage de Street Fighter 6.
De Street Fighter 5 à la base qui est maintenant arrivé dans le 6. Et donc, dans Tekken 8, on a la mécanique de hit, pareil, qui est pensée pour le nouveau système de jeu. Je me disais qu'elle allait avoir des soucis dans la communauté, parce que beaucoup de joueurs de jeux 3D voulaient pas que le jeu se transforme en un jeu 2D. Mais au final, je trouve que c'est quand même bien reçu, même si on est encore sur un jeu en première version, qui a eu son deuxième patch aujourd'hui, à l'heure où on enregistre l'émission. Ça va. Donc pour moi, Tekken 8, c'est un peu le grand gagnant en termes de gameplay et de hype sur cette nouvelle génération. Et c'est aussi le jeu le plus beau des trois, parce qu'on est sur UE5, donc Unreal Engine 5, qui est le moteur graphique, et il est très bien maîtrisé. Pour le moment, j'ai pas vu un AAA plus beau en UE5 sur la current gen.
Guillaume ? Alors, ce qui est très intéressant, moi j'ai joué beaucoup à l'époque, quand j'ai connu Kayane, il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai à cause du taf, mais c'est mon taf d'organiser le Red Bull Comité, qui est une grosse compète internationale avec les meilleurs joueurs là sur Street 6. Mais Red Bull organise aussi des événements sur les autres jeux, donc c'est intéressant d'en parler. À titre personnel, j'étais un grand fan de Guilty Gear, donc Strive est un grand plaisir. J'adore aussi les jeux 3D, hein, comme Kayane, on aime beaucoup Soul Calibur, et je trouve Tekken 8, hein, tout ce que dit Reza, enfin Tekken 8, c'est un jeu exceptionnel, hein, c'est fantastique. Et Street 6, par exemple, si on compare Street Fighter 6 par rapport à la sortie du 5 il y a quelques années, en 2016, là, la première version de Street Fighter 6 comparée à la première de Street 5, mais c'est un autre univers. Les progrès faits pour une première version entre les deux, c'est ce qu'a fait Capcom. Le jeu est en fait ultra complet, hein, dans son mode training, dans tout ça. Et en plus, sur tous les jeux que je viens de citer, hein, nouvelle génération, il y a quelque chose de nouveau, dont on n'a pas encore évoqué, mais qui est un game changer par rapport aux jeux de combat des époques précédentes, c'est le online, qui aujourd'hui, en utilisant le rollback, est ultra maîtrisé. C'est-à-dire que jouer online à Tekken 8, c'est pas comme jouer online à Tekken 7. Jouer online à Street Fighter 6, c'est pas du tout comme jouer online à Street Fighter 5. À Guilty Gear Strive, je vous en parle pas. Il y a eu plusieurs évolutions dans le monde des jeux de combat, hein. Après, évidemment, l'âge d'or des premiers Street, mais bon, là, c'est l'époque des dinosaures. Mais quand Street, il y a eu la sortie de Street 4, si vous voulez, en 2009, sur console, il est sorti en 2008 en arcade, mais qui a porté le online et qui a vraiment ouvert le monde des jeux de combat avec la possibilité de, t'es plus obligé d'aller que en salle d'arcade ou de traverser la France pour jouer avec quelqu'un, mais tu peux jouer avec des gens de loin, même si c'était pas parfait. Et là, donc, c'est la nouvelle révolution, je trouve, ce rollback. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, le online est aujourd'hui sans comparaison avec l'époque, et c'est donc déjà bien un pour les tournois, parce qu'on peut faire des tournois online corrects. D'ailleurs, la plupart des tournois qualificatifs pour la Capcom Cup étaient online, ce qui avant aurait été, mais, impensable. Donc ça change tout, et là en plus il y a eu un patch sur Street Fighter 6 qui permet de détendre en fait votre
triche des gens avec qui vous pouvez jouer. Aux gens qui sont allergiques à l'anglais, c'est un correctif, c'est-à-dire ça permet de réparer les bugs qui peuvent exister dans un jeu pour le rendre plus fluide et plus efficace.
Ou pas forcément des bugs, par exemple là, le patch sur Street 6 vous permet également d'étendre votre recherche avec les gens avec qui vous jouez dans le monde online. Donc si vous avez une très bonne connexion fibrée, vous pouvez arriver à jouer avec des Américains en connexion, avec une bonne connexion. Et avant, pareil, ça c'était de la science-fiction. Donc déjà, ça c'est une grosse progression. Et enfin, pour terminer, sur les jeux, alors à titre personnel, j'ai le temps, genre 10 minutes par semaine, à Street 6 et un peu plus à Tekken 8, ce qui a réduit mes heures de sommeil. Mais ce qu'il faut aussi considérer, c'est que nous, la parole qu'on a, je pense, tous les trois ici, est très évidemment axée sur ce qu'on appelle la compétition de haut niveau sur ces jeux, où on fréquente dans nos émissions, quand on joue, des joueurs de très haut niveau. Bon, il faut aussi avoir l'accès, comment les gens, on va dire, les 2 millions de joueurs qui ont acheté le jeu sont pas des joueurs de haut niveau à Tekken 8. Hein. Donc c'est aussi quels sont les jeux les plus abordables en termes de courbe de progression, d'apprentissage, et quels sont les jeux... Et là, tout de suite, on en... Donc c'est pour ça qu'à mon avis, même dans cette émission, il y aura vraiment deux discussions, c'est-à-dire quels sont les jeux accessibles, et est-ce que les jeux de combat sont accessibles, et qu'est-ce qui les rend accessibles, et ensuite... La discussion, comme Reza a déjà abordé les histoires de drive rush, ça c'est vraiment des questions que se posent déjà avancé. Des joueurs de haut niveau. Parce que savoir comment est un coup qui s'appelle le BAMP de Luke, par exemple dans Street Fighter 6, et s'il a été corrigé ou pas, je pense que dans tous les gens qui ont acheté le jeu, ça concerne qu'une...
Non, moi c'est un grand débat familial tous les dimanches.
Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même deux niveaux de débat à avoir. Mais juste pour finir là-dessus, ce qui est très intéressant dans Street 6 ou Tekken 8, c'est que dans les deux cas, on voit que les éditeurs ont énormément travaillé sur justement l'accessibilité de ces jeux. On en reparlera, je pense, plus tard avec des modes modernes, des modes plus faciles pour faire des combos, l'exécution pure des jeux de baston, mais aussi des modes training et d'entraînement et d'apprentissage mais largement plus évolué. À l'époque des premières versions console, déjà, un, vous aviez pas de training sur Street 2, et après, quand les années ont passé, votre mode training, c'est bon, bah, il y a un demi, et puis tu lui tapes dessus, il se passe rien d'autre. Aujourd'hui, ça vous affiche les frames d'animation, et ça vous donne toutes les courbes d'apprentissage de n'importe quelle technique du jeu. Et ça, pour tous les jeux modernes, donc le online et la courbe d'apprentissage, c'est à mon avis la, voilà, la grosse révolution de cette génération. Au-delà, c'est vrai, de l'aspect graphique d'un Tekken 8 qui est assez exceptionnel.
Kayane, qu'avez-vous pensé de Tekken 8 ?
J'ai beaucoup aimé Tekken 8 et j'ai surtout aimé le fait qu'il y ait de plus en plus de modes solo. Donc l'histoire, ça rappelait vraiment Mortal Kombat avec des cinématiques entrecoupées de combats. Et j'avoue que le mode histoire de Tekken 7, bon, ça perdait en dynamisme parce qu'ils ont rajouté un narrateur qui avait rien à faire là. Et là, c'était vraiment comme regarder un petit film un peu avec l'esprit shonen, le pouvoir de l'amitié, comme on peut le voir dans plein d'animés de séries. Et c'était très plaisant à voir, ça partait un peu dans tous les sens, mais
faire
c'est comme
la
regarder
paix avec
un...
ses démons intérieurs.
Exactement, voilà, réparer ses erreurs et c'était vraiment comme regarder un bon nanar. Et en même temps, faut le prendre comme ça parce que chaque personnage dans Tekken, ce qui est rigolo, c'est qu'ils parlent tous.
On peut pas le prendre autrement dans Tekken.
Ils parlent tous leur langue natale. Oui. Et donc tu peux avoir une conversation entre Lily qui est monégasque, qui parle français, et Asuka qui parle japonais.
Et tout le monde se comprend. Tout le monde se comprend.
C'est génial.
Ah, ils ont de l'IA, ils ont Google.
Ah oui, mais c'est vraiment instantané, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un qui te pose une question en chinois, l'autre va répondre en allemand. Enfin, c'est au bout d'un moment, il y a un truc surréaliste qui se passe en se disant, oh, ça serait ça, un monde dans lequel, là, on parlerait tous la même langue, mais en se comprenant totalement. Jusqu'au moment où Vincent Cassel fait du doublage, mais ça, c'est un grief personnel.
Balle perdue. En fait, c'est un monde ou un système éducatif qui marche parfaitement.
Ça, voilà, exactement. Les c'est des gens, vraiment. Ils ont dû passer par l'école Stanislas, sûrement.
Ah bah oui, plusieurs années de suite. Même.
Bah, moi, je joue Vincent Cassel dans le jeu. Enfin, pardon, Victor Chevalier,
oui,
à des nouveaux persos, tout simplement pour l'entendre. Enfin, il y a des victoires où il gagne contre des persos japonais. Il fait « Ah, on peut avoir des mouchoirs gratuits dans la rue au Japon, en fait, ce qui est vrai, hein, d'ailleurs. » Et je dis « Mais qui a écrit ce dialogue ?» Et la façon dont il le dit, il dit « Expulsion !» Enfin, il dit des trucs en français.
Bon qui...
L'amour.
Oui. Mais oui, l'amour. En fait, ça peut paraître stylé quand tu parles pas français.
Oui,
mais, mais c'est vrai que parfois, nous, on entend des... Tu sais, même dans les animés, ils disent des trucs en japonais. Et en fait, tout nous paraît stylé. Et quand tu comprends ce que ça veut dire, tu dis « Mais en fait, c'est zéro. Ouais, mais ça semble stylé. »
En même temps, c'est souvent comme ça dans des séries ou des films où on entend les gens parler en français et les gens disent « Oh, j'adore l'accent français », alors qu'en fait, il a juste dit « Comment c'était le croissant que des messieurs le veut dire ou quoi ?»
Surtout quand t'es français, que tu te rends compte que c'est pas du tout des acteurs français, mais des Américains ou des Canadiens.
La structure de la phrase ne veut rien dire. Sauf que là, je comprends Vincent Cassel et j'ai quand même l'impression qu'il double comme ça.
Ouais, mais c'est génial, justement, c'est tellement hors propos, c'est le meilleur perso du jeu.
Olivier Bénis, alors, c'est le point de vue sur ce Tekken 8.
Alors moi, j'ai le point de vue un peu plus, justement, joueur de base et plus celui des 2 millions de joueurs qui l'ont acheté, et c'est vrai que Tekken 8, c'est une, enfin pour moi, c'est une vraie réussite. Kayane le disait sur le mode histoire qui est hyper bien amené, et surtout il y a un petit truc moi qui m'a tout de suite accroché sur le mode histoire, c'est ce côté, c'est pas une cinématique un combat, une cinématique un combat, c'est vraiment on va commencer la cinématique, ça va devenir un combat à un moment sans qu'il y ait jamais, à part le petit fight du présentateur, enfin du mec qui anime le jeu. Donc ça va être totalement fluide dans sa narration, tout en racontant une histoire complètement nanardesque, mais vraiment dans le très bon sens du terme. Ça part dans tous les sens, il y a des explosions, les gens ont tous des liens entre eux, il y a le père qui a tué son grand-père, qui essaie de sauver son fils d'un démon, c'est absolument n'importe quoi.
Oui, il y a des ours et des pandas qui ont des griefs aussi.
Ils se battent, évidemment, bien sûr.
Évidemment, parce que évidemment, tout le monde se bat au final. Même s'ils sont potes et tout ça, ils finissent tous par se dire, tiens, si on foutait des grosses mandales au lieu de discuter.
Et même quand ils ont des doutes et des atermoiements, ben tiens, si on se battait pour que ça aille mieux.
Oui, c'est et surtout et la vraie force de Tekken 8, c'est quand ils ont des doutes, des atermoiements, des questions, ils se les posent pendant le combat.
Oui, pendant le combat.
Le combat ne s'interrompt pas, mais ils commencent à taper la discute en se faisant des mandales. Et c'est vraiment, ça a l'air débile comme ça, enfin, mais ça marche très très bien à l'écran parce que c'est visuellement hyper bien rendu, c'est très dynamique dans la mise en scène, y compris sur les combats pas en mode histoire. Il y a vraiment une gestion des zooms, des mouvements de caméra, de tous les super pouvoirs sont hyper impressionnants. Donc, c'est très cool pour un joueur même occasionnel parce qu'on va tout de suite avoir l'impression d'avoir cette espèce d'explosion pyrotechnique permanente à l'écran, qui se passe toujours quelque chose, on a l'impression de faire des trucs de fou, comme on disait, jusqu'à ce qu'on commence à vraiment affronter des joueurs en ligne, où là on se rend compte que c'est pas forcément le cas et qu'on n'est pas si bon que ça, mais même là, c'est joli à regarder, c'est-à-dire qu'on se voit voler dans tous les sens et on se dit, bon bah, c'est moi qui subis, mais c'est quand même sympa visuellement.
Et bah, vous avez la parole, Gardella, est-ce qu'il y a un personnage qui a eu vos faveurs sur ce Tekken 8 et pourquoi ?
Ben moi c'est un peu pareil, c'est Victor Chevalier aussi, c'est un peu mon plaisir coupable.
On est chauvin.
Il y a un petit côté chauvin. Alors, je sais que j'étais pas très convaincu sur les bandes annonces, et quand j'ai vu vraiment le truc dans les bandes annonces avec le doublage, je me suis dit c'est catastrophique, ça va être horrible, ça va me sortir du jeu. Et en fait, bah c'est complètement dans l'esprit du reste. C'est-à-dire que oui, il dit n'importe quoi en français, juste parce que ça sonne bien.
Il veut réserver une table dans un 3 étoiles.
Tous les clichés y passent. Hein. Oui, après, j'aimerais pas être...
Mais tous les clichés, je pense que dans tout...
C'est le Brésil, hein, ou le Mexique.
Le Pérou,
café. Ah, c'est là, non, c'est le Pérou.
C'est le Pérou, voilà. Qui, elle, devrait se faire suivre pour son obsession au
café. Je sais pas,
au
final, je pense que Victor Chevalier, c'est un peu pareil, c'est autant ridicule qu'Azucena.
Oui. Alors quand même, dans le champ de bataille, dans le mode histoire, t'as Azucena qui vient vendre du café, alors que t'as une armée de gens autour qui est en train de se battre, quoi.
Côté CEO, c'est entreprise familiale, tout ça.
Alors, ça marche comme ça à la rédaction de France Inter. Hein, quelqu'un propose un café, tout le monde s'arrête.
Avec gros spoiler à propos de ce personnage qui, quand même, affronte un Allemand qui parle allemand.
Léo. Ouais.
Et en fait, elle découvre qu'il aime le café aussi et elle essaie de deviner sa nationalité alors qu'il parle allemand. Et au bout d'un moment, elle dit « Germany ?» Je suis forte. Et là, j'étais là, je dis waouh, ils sont quand même allés très loin dans le n'importe quoi. C'est que quand même le personnage ne parle qu'allemand. Attends, laisse-moi deviner. Tu serais pas allemand, toi ? Oui. Comment t'as su ? C'était magique. Ça m'a fait rire. Voilà. Je voulais en parler. Et Reza, alors personnage favori
dans les nouveaux ?
Oui, dans les nouveaux.
Reyna.
Ah, je suis d'accord.
Reyna tout de suite parce que moi, ça va être très simple
parce qu'elle est forte.
Depuis que je suis gamin, je joue les Mishima. Donc en fait c'est vraiment c'était A plus B pour moi, j'ai toujours joué Ehashi, Jin.
Mishima c'est succession,
c'est la famille principale,
voilà. Dans le monde du jeu vidéo.
C'est exactement, c'est la famille des persos principaux de Tekken d'ailleurs. Tekken 1 commence comme ça avec Kazuya qui vient se venger contre son père Ehashi. Donc dans tous les Tekken je sais jouer les Mishima, je joue les Mishima. Dans Tekken 7 je jouais Jin, Kazuya et Ehashi. Donc je comptais faire pareil dans Tekken 8. Malheureusement il n'y a pas Ehashi parce qu'il meurt dans le 7. Donc il reste Reyna et Kazuya. Donc je joue Reyna et Kazuya pour le moment. Et plus tard quand j'aurai bien fini de maîtriser mes deux personnages.
On va complètement cacher le fait qu'on vient de spoiler continuer. Un truc énorme, mais...
Non, Tekken 7, c'est pas du spoil. Tekken 7, c'est pas du spoil. Et je continuerai du coup avec Jin et Devil Jin plus tard. Donc voilà.
Donc en vrai, ça se trouve, il est pas mort. Il reviendra peut-être un jour en DLC.
J'espère qu'il revient en DLC, Ehashi, que ce soit en saison 3 ou saison 4, parce que pour moi, c'est vraiment le grand-père ultime du jeu vidéo.
Oui, c'est vrai.
Le grand-père qu'on aimerait tous avoir.
Je te jure.
Il va revenir en zombie, ils vont le ressusciter.
C'est obligé.
C'est exceptionnel.
Kayane.
Mon personnage préféré, c'est Xiaoyu, parce qu'elle me rappelle Xiangfa de Soul Calibur, qui est un personnage que j'ai joué pendant plus de 20 ans. Et c'est vraiment la copie conforme, hein. C'est juste que là, c'est du kung-fu avec juste les mains, les pieds. Dans Soul Calibur, tu utilises des armes, donc elle avait une épée chinoise. Mais là, c'est exactement les mêmes coups, le même style de gameplay, les mêmes feintes, la même créativité qu'il faut pour ouvrir la garde de son adversaire. Mais c'est le genre de personnage assez spécialiste, où tu dois vraiment dédier tout ton temps, toute ton énergie pour l'apprentissage d'un personnage. Mais sinon, j'adore vraiment la jouer. Je suis très à l'aise avec elle. Mais sinon, parmi les nouveaux personnage, c'est Reyna qui m'avait convaincue. Mais c'est un style de gameplay très particulier parce qu'il se joue avec des coups électriques just frame, entre guillemets, où tu dois vraiment réaliser ce coup à la frame parfaite. Et c'est un gameplay où je ne suis vraiment pas habituée à jouer. Donc pour l'instant, je mets un peu Reyna de côté parce que c'est beaucoup d'exécution à avoir pour jouer ce personnage.
Alors il faut expliquer que la frame, c'est la séquence d'image, d'animation, c'est ça ?
Moi, c'est l'unité de mesure qu'on utilise dans les jeux de combat.
Voilà, donc en fait c'est parce que les grands joueurs de jeux de combat ont un cerveau complètement irrigué à fond les ballons et ils arrivent à décoder la moindre séquence d'animation.
Alors aujourd'hui c'est indiqué dans le mode training, hein, mais
oui, mais même mais c'est pas parce qu'il y a plein de choses qui sont indiquées dans le mode training que c'est facile.
Non, alors pour faire simple les frames, c'est vrai, on en parle souvent, mais c'est un truc qui s'est vraiment modernisé, c'est-à-dire que je sais qu'il y a 20 ans, on en parlait dans les magazines, mais c'était un truc obscur, que c'était un peu le secret, en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un jeu de combat, à un certain niveau, les gens, on peut les voir maintenant dans le mode training, ce qui est récent aussi, mais on peut voir ce qu'on appelle donc la frame data. La frame data de n'importe quel perso, de n'importe quel jeu, il faut imaginer qu'en une seconde, vous avez 60 frames d'animation. Et en une seconde, donc en 60 secondes, vous avez une frame d'animation. Voilà, c'est ça. Une frame, c'est 60. Voilà. Et donc, en fait, c'est en jeu de combat, l'unité de mesure, le jeu tourne à 60 images par seconde. Oui, voilà, c'est ça. 60 images par seconde. Là, je suis fatigué. Hein.
Oui, c'est une minute. C'était un jeu qui rame, ça.
Le jeu tourne à 60 images par seconde. Et donc, en fait, tous les coups, eux, on les compte en frame. Donc un coup, il peut faire 14 frames, 12 frames, etc. Et pourquoi c'est important de connaître l'unité de mesure chaque coup? Bah, c'est que par définition, un coup qui sort en 10 frames, il sort plus vite qu'un coup en 14 frames. Donc si les deux coups sont lancés au même moment, bah, le coup qui a le moins de frames, il passera avant l'autre. Et donc comme ça, vous pouvez voir la priorité d'un coup. Et après, vous pouvez voir la priorité d'un coup une fois qu'il a touché, une fois qu'il a été bloqué. Et donc, comment contre-attaquer? Et c'est comme ça, en fait, au-delà de la réflexion sur les combos, c'est comme ça que sont réfléchis ce qu'on appelle le concept de la punition, c'est-à-dire quelqu'un vous a tapé dessus mais vous avez bloqué le coup, quel coup vous pouvez mettre derrière? Bah, ça dépendra du coup qu'il a mis et ça dépendra du coup que vous mettez derrière. Et pour savoir lequel on peut mettre, c'est pas juste on teste au hasard, on regarde la frame data et on regarde donc les caractéristiques en termes d'animation des coups. Voilà, c'est comme ça que ça se...
Alors ça, c'est les joueurs qui ont vraiment envie d'aller à un niveau compétitif.
Voilà, parce que c'est juste pour décoder, voilà. Mais ça devient très mathématique. Mais je dirais que quand vous voulez jouer à haut niveau, ça, c'est le béaba. Il y aura beaucoup d'autres éléments à prendre en compte. Mais c'est vrai que la compréhension de ce concept est important parce que sinon, vous allez perdre contre des gens qui vont vous faire des coups, et vous dites, mais pourquoi je peux jamais rien faire? Bah, parce que tu comprends pas le coup qui te met, en fait, en termes de frame. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses qu'on percevait avant. Enfin, c'est-à-dire que c'était un peu à l'instinct. Et du coup, les meilleurs joueurs marchaient beaucoup à l'instinct et finissaient, à force de rejouer, voir les animations, ils le percevaient sans le savoir. Et après, on a posé un mot dessus, quoi. C'est qu'on a identifié ce côté frame par frame. Et c'est ce qui a permis de rendre vraiment la compétition plus technique et du coup, de permettre de mieux s'entraîner, de mieux planifier les choses.
Et Guillaume, quel est votre personnage favori de Tekken 8?
Victor Chevalier. Non, mais blague à part, moi, pendant des années à Tekken, je jouais depuis le 6, Lars et Lily.
Oh non.
Et en fait, là, c'est comme les jeux de cette génération, que ce soit Street 6 ou Guilty Gear Strive, j'avais décidé de jouer un nouveau perso, pour une fois, pour enfin changer un peu. Donc voilà, jouer Nago Ryuki dans Strive, dans Street 6 Marisa. J'aime bien les persos qui tapent fort et qui ont, a priori, au début j'avais l'impression, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer, donc je me suis, lui il a l'air de taper fort et les premiers jours il va faire mal parce que les gens vont rien comprendre comme il est nouveau, vous voyez le... Et c'est vrai,
c'est vicieux.
Marisa et Nago, j'avais pas tout à fait tort.
Oui.
Et là en fait, ouais, Victor Chevalier, ça me faisait marrer, il est français, il joue sur un bateau sur la Seine, ça a vraiment commencé comme ça. Et après, au-delà de ça, le perso, je pense pas qu'il soit très fort en vrai, mais en tout cas, il est extrêmement sympa. Ça va. C'est pas Reina, quoi. Mais il est extrêmement fun et plaisant à jouer. Voilà.
Je vais me poser la question à moi aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Évidemment Leroy.
Leroy Smith?
Oui.
C'est marrant parce qu'il fait partie des personnages les moins joués, mais à chaque patch, il se fait nerfer. C'est-à-dire qu'il est équilibré pour être moins fort.
Mais moi, c'est vraiment juste parce qu'il a le swag. Hein. C'est vraiment, c'est les dreads. Il est stylé et tout, et il fait du kung-fu. Et vraiment, l'idée d'avoir un moine Shaolin afro-américain, j'aime beaucoup. Et puis évidemment, après, il y a... deuxième, c'est Raven.
Ok.
Parce que Wesley Snipes, Blade, donc forcément, il y a une.
Il y a Blade qui arrive d'ailleurs bientôt là.
Oui.
Par Arcane.
Oui.
On en reparlera dans une autre émission.
Évidemment.
On parlera d'Arcane en général. Voilà.
Et il y a notamment une mécanique de jeu dans Tekken qui existait déjà aussi sur Tekken Tag qui permet de récupérer de la vie perdue lors d'un affrontement. Et c'est-à-dire que si jamais on se fait agresser dans Tekken 8 et qu'on répond rapidement, on peut récupérer une petite partie de sa vie. Est-ce que vous qui êtes de très très bons joueurs, ça a changé votre manière d'appréhender le Tekken 8 ou c'est un détail bienvenu? Alors, mais pas décisif?
Je me permets de commencer. Pour moi, c'est un détail parce que dans tous mes jeux, je tape. Tu vois, donc,
tu tapes plus longtemps.
Je suis très offensif, j'aime bien jouer les persos qui ont des gros pressings. D'ailleurs, c'est très marrant parce que Kazuya n'a pas de gros pressing, tu vois, c'est très drôle. Comparé à Heihachi ou Reina qui a énormément de coups positifs ou autres. Donc j'aime beaucoup enchaîner les séquences de coups positifs ou de coups, comme on parlait tout à l'heure. Coup positif. Donc comme disait tout à l'heure le bon d'Horizon, il disait qu'il y a certains coups, par exemple, qui vont être par exemple à plus 1 dans la garde ou à moins 1 en parlant de la frame data. Donc si mon coup est positif, c'est-à-dire qu'après avoir tapé dans la garde de l'adversaire, je suis à plus. Que ce soit plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc logiquement, c'est à mon tour de retaper derrière. Et donc parfois, ça nous crée des séquences de pressing où les commentateurs diront « Il tape tout le temps, lui, c'est tout le temps à son tour, ce perso, il veut jamais laisser passer son tour. » Donc vu, par exemple, Reina, c'est un perso qui tape beaucoup. Pareil pour Devil Jin aussi, Devil Jean. C'est des persos, du coup, qui vont assez facilement récupérer la barre blanche. Donc on appelle un peu la barre blanche dans le milieu, qui peut être récupérée quand on tape justement avec certains coups l'adversaire. Mais ça, c'est plus ou moins équilibré bizarrement parce que t'as des personnages qui ont certains coups qui qui ne font pas spécialement remonter beaucoup de barres blanches, et t'en as d'autres où c'est meilleur. Donc pour l'instant, je me suis pas vraiment posé dessus à 100%, mais le jeu a 3 semaines et demie, et il y a encore pas mal de trucs qu'on est en train d'apprendre. Donc ça va dans la bonne direction, je pense.
Oui, c'est un détail. Et en réalité, au début, tu ne te rends pas trop compte de ce truc de barre de vie blanche que tu récupères à force de taper. Mais il faut savoir que l'équipe de développement de Tekken 8 a vraiment voulu rendre ce Tekken 8 très offensif, beaucoup plus que les opus précédents.
Il ne faut pas rester en garde.
En garde, tu n'as absolument aucun avantage, en fait. Donc la barre de vie blanche, tu la récupères si tu tapes, justement. Et tu as des coups même qui te font récupérer de la barre de vie blanche avec vraiment beaucoup de vie. Et personnellement, je trouve que parfois jouer à Tekken 8 me fait régresser dans mon jeu habituel parce qu'on te pousse constamment à oppresser ton adversaire et à pas avoir beaucoup de défense. Toute la mécanique de hit qui est nouvelle dans Tekken 8, c'est faut bourrer l'adversaire, faut le taper. On a une barre de.
Ah oui,
de
oui, moi, il y a même des moments où j'ai l'impression que la défense ne sert quasiment à rien.
Parce que tu perds en plus de la vie quand tu te protèges. Tu perds cette vie blanche, justement, quand tu te protèges. Donc, en fait, le jeu veut que tu réagisses en attaquant. Et donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de style de personnage, comme dans Street Fighter 6, où tu peux avoir des attaquants, où tu peux avoir des zoneurs, des personnages qui vont prendre de la distance avec l'adversaire.
On a dit qu'on ne parlait pas de Jean-Paul. Un personnage de Street Fighter 6 qui est grand spécialiste du zonage.
JP.
Oui, JP, oui.
JP Polnareff.
mais oui, t'as pas, j'ai l'impression, de style de combat bien défini dans Tekken, parce que ils sont tous en train de bourrer dans ce jeu-là, j'ai l'impression. Dans Street 6, c'est plus facile à définir. T'as le chopper, le perso comme Zangief qui doit venir au corps à corps te choper. Là, sur 32 personnages, t'as King. Dans Tekken, et puis j'ai l'impression que c'est tout. Sinon, t'as même des personnages comme le mien d'ailleurs qui fait une chope et derrière un combo garanti, un enchaînement qui enlève la moitié de barre de vie. Et c'est pas une chopeuse de base.
Oui. On peut la déchoper, ça,
Guillaume ?
Tu peux la déchoper.
Toi, tu peux déchoper.
Oui, oui.
On parlera après. Mais alors, le paradoxe de Tekken, d'ailleurs, en parlant de cette. Ils font tout pour l'attaque, mais en fait, si tu veux t'en sortir dans le jeu, alors on parle vraiment à très haut niveau, très très haut niveau. C'est tout se joue sur la défense. Le meilleur joueur du monde de Tekken, en tout cas de Tekken 7, mais incontesté, il a tout gagné sur Terre. Arslan, qui a une histoire de shonen, hein. C'est un joueur pakistanais. C'est comme dans Dragon Ball, hein. Il est arrivé du jour au lendemain, il n'était pas connu, il a tué tous les meilleurs du monde. Il venait d'un village. Et après, il a dit, ah, mais dans mon village, ils sont meilleurs que moi. Non, sans rire. Alors, l'histoire est fantastique. Bon, c'est pas le sujet, mais tout ça.
Et on est allé vérifier?
Ouais. Oui, les Coréens ont été au Pakistan, du coup, pour aller vérifier.
Et ils l'avaient pas tort.
Ils sont fait tabasser.
Et c'était des joueurs vraiment très
jeunes. Donc, il y a un petit village du Pakistan qui s'est spécialisé dans Tekken 7.
Non, mais un jour, il y a un événement qui s'appelle Levo, donc, mais c'était Levo de Japagne. Il y a Arslan qui débarque. Personne ne sait qui c'est. C'est genre un random qui s'inscrit à un tournoi. Ça qui est d'ailleurs la magie dans les tournois de jeux de baston. C'est que c'est comme au poker, dans les ligues open, c'est un open, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de genre de ligue fermée comme League of Legends, c'est n'importe qui peut s'inscrire et il démarrera au premier tour. Au premier tour, vous aurez aussi le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas de.
Il n'y a pas d'avantage.
Comme au tennis, mais un tennis qui sera en open total, comme un Roland Garros en open total, vous pouvez. Vous êtes 31 et vous jouez Djokovic au premier tour, quoi. C'est vraiment ça, hein. Et en fait, donc il arrive, les meilleurs joueurs du monde à ce moment-là, donc c'est évidemment les Coréens, Ni
Kokoma, tout ça.
Voilà, ou certains Japonais, Nobi. Enfin, tu vois, il y a des grands joueurs, quelques Américains. Le mec, il arrive, il tue tout le monde. Bon, on se dit, bon, ça peut arriver. Mais il est pakistanais, on ne sait pas d'où il sort, il a joué en ligne avec personne, personne ne connaît. Puis après, il gagne un Evo. Mais le gros Evo, celui des Américains. Puis après, il gagne tout. Mais genre, il gagne tout.
Il regagne l'Evo de
Japan. Il gagne l'Evo plusieurs fois.
Et il finit sur le World Tour.
Et il gagne le World Tour. Et à ce moment-là, il se dit, mais c'est quoi son truc? Et on apprend qu'il y a une communauté au Pakistan, hein, dans son
super
village.
Fort.
Et il faut savoir que la communauté lui a dit, son voisin ne voulait pas jouer avec lui, et lui a sûrement dit, écoute. Va d'abord t'entraîner avec le reste du monde,
peut-être.
Tu reviendras dans le village.
Non, mais c'est un shonen, surtout qu'à l'époque de Tekken 7, justement, c'est pas le online de Tekken 8, donc ils jouent que entre eux. C'est comme si demain, à League of Legends ou à StarCraft, il y a un gars, il débarque de France, de Médan, de nulle, ouais, de la Creuse, et il tue tout le monde, mais comme ça. Du jour au lendemain, mais il les tue. Et du coup, bah, ça a bouleversé le monde de Tekken. Et ce qui était donc hyper drôle, c'est effectivement les Coréens qui y vont. Et maintenant, le Pakistan, c'est les meilleurs de Tekken. Ça, c'est, enfin, bref. Et donc, Arslan, il était très fort, notamment. Alors,
en défense.
Voilà. Arslan et en fait, ennemi, ouais. Tekken, il faut comprendre que, justement, le problème de le paradoxe, c'est que le jeu peut sembler hyper accessible de prime abord, parce que n'importe qui peut y jouer en bourrant un peu tout ce qui passe. Et ça fera des choses, contrairement à Street 6, par exemple, où c'est pas le cas. Vous bourrez, il va pas se passer grand-chose. À Tekken, il va se passer des trucs. Et c'est pour ça que le jeu est amusant dès le départ. Sauf qu'en fait, à haut niveau, ça sert à rien. Et vous êtes obligé de connaître parfaitement votre perso, qui a beaucoup de coups, beaucoup plus qu'un perso de Street. Et quand vous vous dites qu'il faut, en fait, à très haut niveau, justement, comme les persos ont plein de variétés de coups, et comme ils agressent tout le temps, et ben à un moment, vous êtes obligé de bloquer. Vous êtes obligé de savoir quoi bloquer et quoi punir. Donc vous êtes obligé de tout connaître, de tous les persos, parfaitement. Donc la somme de connaissances, en réalité, que demande un Tekken est beaucoup énorme, plus étendue qu'un Street Fighter 6. Alors, les jeux à haut niveau se jouent sur des skills différents, des capacités différentes. Mais en tout cas, le piège de Tekken, ça qui est drôle, c'est que de prime abord, Street a l'air plus complexe, alors qu'en vrai, c'est plus simple. Et Tekken, c'est l'inverse. Il a l'air plus simple, alors qu'en vrai, c'est infiniment plus complexe, en tout cas sur la connaissance du jeu. Et c'est pour ça que ce qui fera la différence à terme, c'est la défense. Parce que celui qui attaque tout le temps, c'est bien, mais si en face vous avez quelqu'un qui bloque tout et qui sait parfaitement comment contre-attaquer à haut niveau, vous pouvez attaquer autant que vous voulez, avec les attaques que vous voulez, en fait, il va rien se passer. Et donc, Arslan, c'était pour conclure là-dessus, désolé pour cette longue intervention.
On est allé au Pakistan, on Arslan, est revenu, on a voyagé pour pas cher.
Arslan, il a tué donc les meilleurs joueurs du monde, avec certains persos, il utilisait trois coups. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il bloquait tout, et surtout, il évitait tout, il steppait. Donc le step, donc le fait d'éviter dans Tekken, il faut savoir que le step, c'est pas illusoire dans Tekken. En fait, chaque coup, soit le coup, il est positif, comme dirait Zé en garde, mais si, il a donc un défaut, ce coup, par exemple. Ça veut dire, s'il est très fort en garde quand le gars en face le bloque, c'est-à-dire que le coup, il doit sans doute être steppable. Donc, vous pouvez sans doute vous décaler pour l'éviter. Et donc, punir. Et si vous jouez contre quelqu'un qui connaît parfaitement les coups que vous faites et qui a une réponse à tous les coups que vous faites, il suffit d'un coup pour vous tuer. Mais pour arriver, en fait, à cette épuration du coup, qu'est-ce qu'il a dû faire? C'est-à-dire que, c'est comme si vous prenez une somme entière de connaissances.
C'est et comme Thanos dans Endgame. It cost me everything.
Voilà, mais à la fin, il vous suffit d'un coup, mais vous avez la défense parfaite. Donc voilà, c'est un jeu d'attaque, mais in fine, où c'est la différence, ça sera la défense.
À très haut niveau.
Olivier, c'est vrai que là, on entend des gens qui s'y connaissent très précisément, mais ce côté, j'ai jamais rien appris, mais je découvre Tekken et je me lance et je bourre, c'est quelque chose que vous avez vous-même vécu avec votre compagne, si je ne m'abuse.
Oui, aussi, vous êtes très bien renseigné. Oui, effectivement.
Bah, arrête pas Tekken... de se vanter, hein. Elle arrête pas de me téléphoner. Dit, ah, je lui ai mis une pile et tout.
Non, c'est, alors ça, dans la chronique que j'ai fait sur Tekken 8, j'ai raconté ce côté. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé du jeu, du côté que, bah, moi, j'y joue depuis le premier, je connais bien et tout ça. Et que ce que je trouvais cool, c'est que Tekken, vous pouvez avoir quelqu'un en face, donc, en l'occurrence, mon épouse, qu'on salue, qui peut arriver, appuyer sur plein de boutons en criant très fort et vous exploser. Parce que moi, je suis pas joueur de haut niveau, donc j'ai pas le côté, parade, ni rien. Je vais avoir deux, trois trucs où je vais réussir vite fait à bloquer un truc et à contre-attaquer. Mais ça va être vraiment très limité. Et c'est ça qui est cool dans Tekken, justement plus que dans Street Fighter 6, où pour le coup, Street Fighter 6, quelqu'un qui a un peu joué... Enfin, va moins y avoir cette énorme différence de niveau. C'est-à-dire que Street Fighter 6, vous allez avoir des joueurs qui vont être un petit peu moyens, on va dire comme moi, pour être vraiment très gentil, et qui vont pouvoir parer, faire des coups spéciaux, des choses un peu impressionnantes, et des choses qui vont donner l'impression à l'autre que vous êtes beaucoup trop fort pour lui. Tekken, il n'y a pas ça, parce que ça part tellement dans tous les sens, et il y a tellement, comme on disait, ce côté très offensif, et le jeu, même quand on joue à très bas niveau, on sent que le jeu vous incite à y aller, à appuyer sur tout ce qu'on fait, à bourriner, à essayer de vraiment d'oppresser l'adversaire le plus possible. Ça incite beaucoup à ça parce que c'est tout simplement c'est très joli à regarder et c'est super marrant à faire. Et du coup, ça fait que bah voilà que des joueurs de niveau un peu différent, pas des joueurs de très haut niveau contre des joueurs de niveau normal, mais des joueurs de niveau un peu différent vont avoir l'impression tous les deux de s'amuser. En fait, tout simplement, de faire quelque chose de fun, de donner du fil à retordre à l'autre, même si c'est pas forcément le cas vraiment. Il y a vraiment ce côté prise en main instantanée qui je trouve est très cool sur Tekken. Et comme disait Reza, en plus, le jeu est magnifique. Enfin, vraiment, c'est un des trucs les plus beaux qu'on ait vu dernièrement.
Et les musiques.
Ouais,
et
exceptionnel.
Incroyable. Et alors, j'aimerais parler du mode Arcade Quest dans Tekken 8, qui est pour moi la meilleure manière de faire un tutoriel efficace et intelligent. C'est-à-dire que, au lieu de vous donner des séquences à apprendre comme ça, leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4, on crée un petit avatar avec des gens qui jouent à des bandes d'arcade, vraiment dans des, c'est donc des petits personnages qui, c'est SD, qui jouent, en fait, à Tekken un peu partout. Et en fait, via les missions qu'on te donne à faire dans cet univers-là, tu apprends les mécaniques de jeu, mais exactement comme il faut les apprendre. C'est-à-dire que, avec, d'abord, un combo pour projeter l'adversaire en l'air, un autre pour parer. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à intégrer les mécaniques de jeu, mais de manière ludique, sans que ça soit quelque chose d'un petit peu laborieux, comme à l'école, avec leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a une âme de cancre, on a envie de sauter directement à la leçon 77 et dire, oh, j'ai pas envie de me taper tout ça quand même. Et ben là, avec ce mode Arcade Quest équipé, pas de mine, comme ça, bah mine de rien, on apprend ces mécaniques de jeu beaucoup plus intelligemment. Bah, c'est la première fois que je vois un jeu de combat prendre le temps d'emmener les nouveaux joueurs comme ça bah, vers le royaume des, bah, je vais pas dire des excellents joueurs, mais des joueurs acceptable. Et la démarche qui est privilégiée, c'est celle de l'amusement. Et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans les jeux de baston en premier, qui est de dire, attendez, on est quand même, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour s'amuser.
Il y a un côté sans douleur, ouais. Et surtout, je trouve que c'est assez symptomatique de ce qui se passe depuis un an avec Tekken 8, Street Fighter 6, même Mortal Kombat 1. Il y a ce côté, bon, on a des jeux de baston où maintenant il y a vraiment quelque chose autour de l'e-sport, des combats professionnels qui est très très fort. Mais on veut pas oublier pour autant les gens qui débarquent. Et ce qui était un peu le défaut des jeux précédents, c'est aussi, je pense, ce qui fait que le genre est un peu tombé en déshérence, en tout cas dans le grand public, que c'est des jeux qui sortent moins souvent, que ça a pas forcément été simple d'imaginer d'avoir un Street Fighter 6 ou même un nouveau Mortal Kombat par moment, ou même un Guilty Gear, hein, on en parlait, c'est des jeux où des fois, certaines séries de jeux de baston, c'est encore aujourd'hui un petit miracle quand ils sortent. Je pense à Soul Calibur, par exemple, qui a pas du tout le succès qu'il mérite, alors que c'est un excellent jeu, c'est super agréable à jouer et tout, mais voilà. Et donc,
il y en a énormément comme ça. Rival School que j'avais
on parle pas de The King of Fighters 15 qui est récent, on parle pas encore de la série des Grandes Boucles,
il y a aussi 2
qui là on parle on parle des jeux en plus les plus connus, mais c'est vrai que dans le milieu des jeux de combat il y en a aussi beaucoup d'autres qui sortent qui sont beaucoup plus niches, en tout cas en France il y en a qui sont un peu plus
et du coup je trouve ça intéressant et super agréable pour le grand public de voir que des grosses licences comme Street Fighter, Tekken continuent à prendre un petit peu les joueurs par la main en disant non mais non tu vas voir c'est impressionnant, tu vois les combats là sur Twitch, les trucs comme ça, t'as l'impression que tu pourras jamais faire ça, mais viens, tu vas t'amuser quand même, on va te montrer 2-3 trucs et tu vas voir en fait il y a vraiment 2-3 petites choses à apprendre sans douleur comme ça en jouant qui vont faire que tu vas t'amuser beaucoup plus que sur peut-être les épisodes précédents.
Mais ils avaient cette politique à la sortie du jeu, là, que ce soit à la sortie de Street Fighter 6 envoyé en France, ou même c'était un message envoyé par Capcom. Ils voulaient faire participer des talents, des créateurs de contenu, mais pas des joueurs de jeux de combat, des créateurs de contenu gaming, et de leur demander de s'investir, de montrer qu'on peut s'amuser autour du jeu, de se dire, certes, il y a le haut niveau, mais c'est comme dans n'importe quel sport. C'est pas parce que vous regardez des matchs de tennis au niveau, vous pouvez pas juste sortir et aller faire un match de tout le monde peut jouer au tennis, quoi, à plus ou moins de niveau. Et je pense qu'ils avaient cet esprit dans les jeux de baston, disant oui, il y a le haut niveau, mais il n'y a pas que ça. On va communiquer sur le fait qu'il n'y a pas que ça, mais là, la grande nouveauté, c'est que les jeux prennent en compte aussi, donc dans leurs différents modes, qu'il n'y a pas que ça. Avant, ils communiquaient dessus, mais en fait, il n'y avait vraiment que ça. Tu vois, c'est ça la différence.
Ready? Then show me.
This will be a good fight. Round one. Fight.
C'était la bande-annonce du jeu vidéo Street Fighter 6. Alors évidemment, même question pour Tekken 8. Le jeu est sorti un petit peu avant. Vous avez eu l'occasion de le tester, d'y jouer. Donc, quel est votre avis sur ce Street Fighter 6, Reza?
Agréablement surpris. Je me permets de commencer parce que je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Asenka. On a vécu la sortie de Street 5. Et Street 5 à la sortie, c'est la catastrophe.
Et parce qu'il est sorti en morceaux. Hein.
Exactement, il est sorti en morceaux. Déjà, il n'y a pas de mode histoire, il n'y a rien. Dans le mode arcade, des images faites par mon graphiste. Et à la fin, t'as un petit mode entraînement et quasiment rien. Au final, c'était vraiment un jeu qui méritait de sortir limite à 25-30 euros. Mais qu'ils avaient sorti en fait en avance à l'époque parce qu'ils voulaient absolument mettre en avant leur Pro Tour et l'Evo. D'ailleurs, c'est le premier jeu de combat qui sortait avec dans la boîte, à la place du coup de la notice, du coup, qu'on ne voit plus trop dans les jeux vidéo aujourd'hui, depuis le Blu-ray, qui montrait directement le Pro Tour et le fait de devoir ou de vouloir s'inscrire au championnat du monde de Street Fighter 5. Donc quand Street Fighter 6 arrive, il a un vrai challenge, il a un vrai défi, c'est de faire un jeu vidéo complet. Tout à l'heure, en plus, on parlait de ces jeux-là justement qui ne faisait que du combat et rien d'autre. Moi, comme je joue un peu à tout aussi, beaucoup aux jeux américains, je sais qu'on n'est pas beaucoup en France à jouer aux jeux américains, bah c'est là qu'avaient réussi le tour de passe-passe les gars de NetherRealm Studios pour Mortal Kombat,
oui.
Qui avaient apporté justement leur version du mode histoire bien rythmé depuis Mortal Kombat 9.
Mais d'ailleurs, en fait, on parle du mode histoire de Tekken, mais
ça vient de
Mortal Kombat. Exactement. Mortal Kombat a révolutionné la manière de raconter, de faire un mode story dans les jeux de combat.
Exactement. Donc de ce côté-là, ça allait bien. Et Street 4, qui était ultra populaire, surtout même au niveau compétitif, c'était le jeu de combat le plus populaire, il avait quand même aussi très bien marché en casu, tout le monde se disait on va prendre Street 5, donc Street 5 qui sort, c'est la catastrophe, et on se dit, bon, Street 6 y a plus Ono, alors non, voilà, Ono qui s'occupait de Street 5, il y a un coup à jouer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, ils arrivent avec le kit complet, système de jeu en ligne, le rollback, c'est un meilleur netcode online, on va pas forcément rentrer dans les détails, système de rollback, système de crossplay pour jouer avec les copains qui sont sur Play comme ceux qui sont sur PC, on utilise le moteur graphique, ou sur Xbox, avec qui d'ailleurs Street 5 n'était pas sur Xbox, on utilise le moteur graphique, le RE Engine, qui est le moteur graphique maison de Capcom, avec lequel ils font Resident Evil Remake 2, 3, 4 et Devil May Cry 5. Un mode entraînement hyper complet, un mode solo qui s'appelait le World Warrior, si je dis pas de bêtises, où on t'apprend aussi à jouer avec des sensei, qui sont les 8 persos originaux de Street Fighter 2 pour les anciens.
Mais
et pour ceux
qui sont un peu nostalgiques. Et où tu crées en fait un personnage avatar qui en fait apprend les coups en s'entraînant avec les différentes stars de.
Exactement, de Street Fighter 2. Donc en vrai, on arrive avec un jeu vidéo qui, pour moi, hein, puisque je fais aussi du coup des notes de jeux vidéo, hein, c'était à l'époque sur le stream MGG, j'avais donné, je crois, 18,5 quasiment ou 19, parce qu'en fait, Street Fighter 6 sort, c'est un GOTY. Il sort vraiment avec l'équivalent de tout ce qu'il mérite pour être GOTY, parce que bon, on sait que les jeux de combat, malheureusement, ne seront jamais GOTY. Game of the Year. Voilà, ils seront jamais Game of the Year, malheureusement.
Jeu de l'année pour les anglophones.
Donc, ouais, voilà. Donc, Street Fighter 6, pour moi, vraiment, c'est quasiment un sans faute. Si on parle côté jeu vidéo, là, je parle pas compétitivement. Je parle vraiment côté jeu vidéo, c'est presque un sans faute. Je sais pas ce qu'on peut lui reprocher à la sortie.
Kayane?
Pour rejoindre ce que dit Reza, il est hyper complet. Et en plus de ça, tu peux vraiment apprendre tout le jeu sans forcément passer par des tutos YouTube. Il faut savoir que dans le jeu, t'as quand même des tutoriels, mais t'as vraiment des tutos par personnage où on t'explique le game plan à avoir avec chaque perso. On t'explique à quel moment il faut utiliser tel coup, la force que ça a, les combos que tu peux faire derrière. T'as aussi le mode défi qui te permet d'avoir des bases de combos à apprendre. Et ça, il n'y avait pas vraiment tout ça dans les précédents Street Fighter ou même dans des jeux de combat, même dans Tekken par exemple. On t'explique pas main dans la main à quel moment tu dois utiliser tel coup. En même temps, il y a 32 personnages, ça aurait fait beaucoup, alors que Street Fighter 6, il y a beaucoup moins de persos.
Et de coups, et moins de coups.
Et il y a beaucoup moins de coups. Ouais. T'as quand même dans Tekken une liste de coups principaux à utiliser. T'as une vingtaine de coups sur la bonne panoplie de 100 à 200 coups par perso. Mais au moins dans Street Fighter 6, t'es vraiment accompagné et tu comprends en fait comment se joue ton personnage, quel coup utiliser à quel moment, etc. Donc c'est vraiment bien pour accompagner les joueurs, on n'est pas perdu. Et ça a été vraiment, je pense, quelque chose de fou pour accompagner les joueurs et pour attirer un grand nombre de joueurs qui sont perdus quand ils découvrent Street Fighter. Déjà, le choix du personnage, c'est extrêmement important. Mais si en plus, on t'apprend...
Personnages qui sont quand même extrêmement stylés.
Ils sont tous très stylés, très bien peaufinés. Ils ont leur propre personnalité, leur propre style de combat. Il n'y a pas de doublons. Ils sont vraiment chouettes et vraiment uniques. Donc vraiment, je suis très satisfaite de ce que Capcom a réussi à produire. Et j'aurais aimé encore plus de succès. Je pense encore, mais on n'est que la première année et encore, c'est même pas terminé. Hein. Il est sorti en juin de l'année dernière et il y a déjà un beau succès. Il y a un bel accompagnement aussi e-sport. Ils ont mis 2 millions de cash prize pour la première saison, dont 1 million pour le premier, avec vraiment ce message pour dire si vous voulez être millionnaire, jouez à Street Fighter. Et c'est fou parce que pendant longtemps, c'était les jeux NetherRealm, donc Mortal Kombat Injustice, qui avaient le plus gros cash prize dans les jeux de combat, avec environ 200 000 à 500 000.
En moyenne 250 000 et parfois tu avais l'E-League en même temps, donc ça tournait à peu près à 400 000 sur 6 mois.
Ah ouais, donc ça a été vraiment le gros renouveau pour dire on a 1 million de cash prize sur Street Fighter 6. Ça a été d'ailleurs renouvelé, ça va être pour l'année prochaine aussi 1 million de cash prize pour le premier. Donc voilà, ça peut changer des vies. Et d'ailleurs, le champion de la Capcom Cup s'appelle Uma. Et lui, pour le coup, pas de sponsor. Il est fan de VTuber.
Lui aussi, il est arrivé, il a tout raflé. Hein.
Il avait pas beaucoup d'argent. Il avait $300 en poche. Il fait le tournoi, il gagne 1 million. C'était le gars le moins attendu. Quelqu'un aurait parié sur lui, il serait aussi millionnaire. Hein. C'est vrai. T'avais des. Enfin, bref, c'est comme si, je sais pas, c'est quelqu'un qui sortirait des qualifs à Roland Garros et il gagne quoi. C'est.
Ça change des vies.
C'est une belle histoire. Non, mais c'est beau. Let's see what the choice is from Uma.
Perfect carry. Hey, takes weight. Look at the setup for the feng shui engine. The corner carry is going to be so significant, and so is the burnout. He's got no resources, so he's going to play with the stun. He's going to set him up for a stun scenario. Let's see what he does. This full conversion. This is the game. He's done. I think he's done. That's it. It will be the stun. He's going to store up. He's going to finish the combo. And ladies and gentlemen, $1 million is going to be awarded to Uma. Nobody had him on the cards to take the cup. He's represented with Jury. He's represented Taiwan. And he will be your first $1 million champion for Street Fighter 6 here at Capcom Cup 10.
Eh oui, millionnaire après avoir joué avec Jury en pyjama. J'ai rien à avoir une pensée émue pour le joueur d'en face qui jouait avec Luc, qui quand même maîtrisait la bonne première moitié du combat, et qui tout d'un coup voilà, a vu ce perfect parry, cette parade parfaite.
C'est incroyable parce que enfin, moi j'ai compté, ça dure 16 secondes.
Ça dure 16 secondes.
Il fait le perfect parry. Ouais. Et là, il y a 16 secondes pendant lesquelles il peut plus rien faire. L'autre l'assassine littéralement contre, enfin, il coince contre un mur.
Je pense qu'il faut le suivre. Hein. Je pense que parce que ça va vraiment être l'histoire d'une bonne partie de sa vie. S'il a des enfants, c'est ce qu'il leur racontera. Et je vous raconterai comment je suis passé à côté d'un million.
La gapa, on parlait des révolutions de Street Fighter 6 et du netcode. En fait, pendant longtemps, les meilleurs joueurs du monde étaient dans les jeux de combat pendant très longtemps, essentiellement japonais, pour la simple et bonne raison. D'ailleurs, c'est toujours là qu'il y a la plus grosse concentration de joueurs de très haut niveau, et donc ils pouvaient jouer entre eux dans les salles d'arcade. Et quand les joueurs, avant même les potes Street Fighter 4, c'était que du offline, bah vous pouviez être fort, mais si vous êtes fort tout seul, ça sert à rien. Il faut jouer avec des gens qui sont forts autour de vous.
Fort, ouais.
Et c'est vrai que l'online a permis à toutes les communautés de jouer entre eux. Donc des joueurs de Taïwan peuvent jouer assez facilement avec des joueurs de toute l'Asie, des joueurs japonais, etc. Et donc le niveau, c'est équilibré dans le monde entier. On a pu voir un Français, un Luffy en 2014 qui gagnait l'Evo à Street Fighter 4. Et là, on voit un joueur taïwanais, c'est vrai, hein, que peu de gens connaissaient.
Uma.
Voilà, qui réalise une performance. Et ça qui est d'ailleurs très beau hein, dans les jeux de combat. C'est de pouvoir voir ça, des choses inattendues. Et c'est ce qu'on préfère. Même un des plus gros tournois de l'année, c'était le Red Bull Kumite en Afrique du Sud. Et on a vu, d'ailleurs c'est une des vidéos les plus vues de l'histoire de Street Fighter 6, il y a plusieurs millions de vues, on a vu au premier tour le champion sud-africain, Jabim. Donc c'est pareil, c'est pas un joueur, alors c'est un très bon joueur, attention, hein, c'est le meilleur joueur sans doute un des meilleurs joueurs du continent africain, mais c'est pas le meilleur joueur mondial. Et au premier tour, il bat la légende Tokido, qui est un des meilleurs joueurs, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire des jeux de combat. Et il le tue au premier tour. C'est vraiment ça. C'est vraiment votre champion national. Il tue Rafael Nadal à Roland Garros au premier tour. C'est ça. Devant son public. Et l'émotion dans la salle à ce moment-là.
Ah, j'étais là sur place, c'était absolument incroyable. Il y a toute la salle qui vibrait, qui tremblait. Il y avait tous les joueurs qui voyaient en fait ce rêve se réaliser devant eux. Et en plus de ça, Jabim était accompagné de sa maman, les larmes aux yeux. Elle a pu assister à ce rêve et c'est fou parce que avoir justement ce genre d'invitational, donc de tournoi où on est dans un lieu, dans un pays différent chaque année, on va faire rayonner la star nationale de ce jeu de combat qui a pas trop les moyens de se déplacer et on va faire venir des champions du monde entier se déplacer et jouer. Et tu vois qu'en fait, il arrive à briller et que parfois, ces manques de moyens font qu'il rayonne moins à l'international parce qu'il n'y a pas ces moyens-là. Mais là, il a brillé. Il a pu montrer que si, en Afrique du Sud, on est présent et on est capable de battre des champions japonais qui sont là depuis 20 ans.
Et ce sont des gens qui sont des fois qui vivent dans des familles qui ont pas beaucoup d'argent parce que souvent le reproche qu'on fait aux jeux vidéo c'est oui mais quand même un jeu c'est cher aujourd'hui.
C'est cher mais les voyages aussi.
Voilà, les voyages aussi.
Mais justement c'est là où je voulais en venir, c'est vraiment ça, c'est que Street 6 alors et pas tout seul mais a vraiment changé ça. Exactement avec ce que disaient Reza et Kayane, en arrivant avec un package complet pour s'adresser à des gens qui n'étaient pas rentrés dans autant de détails, avaient poussé autant la compréhension d'un jeu de combat, et aussi avec ces possibilités online, justement, de pouvoir jouer avec des joueurs du monde entier, donc de monter de niveau. Et ça, c'est Street 6, c'est vraiment un jeu qui est arrivé, à mon avis, il a été très pensé par Capcom. Hein, ils réussissent bien leur coup ces dernières années, Capcom. Hein, tu vois Dragon's Dogma 2, tu vois qu'ils ont réfléchi. Les remakes, tu vois qu'ils ont réfléchi. C'est pas les Capcom de 2015-2016.
Non, mais même Monster Hunter, la manière dont ils ont fait évoluer la franchise.
Street 6, c'est-à-dire qu'au-delà du jeu lui-même, on voit qu'il a été pensé, réfléchi en termes de market, de jeu complet, de tous les modes d'accessibilité. Il y a même un mode pour les joueurs aveugles. C'est une autre histoire de Shonen, un joueur aveugle qui faisait des performances à Street. C'est pas une blague. Mais c'est une autre histoire. Mais tout ça pour vous dire qu'il a été extrêmement réfléchi. et que le résultat se voit. C'est-à-dire effectivement qu'on aime ou pas le gameplay, qu'on aime ou pas le chara-design, les musiques, ça c'est une autre question. Mais on ne peut qu'admirer, hein, ce que dirait ça, le fait qu'il soit arrivé avec un vrai produit pensé, réfléchi, complet, et qui peut enfin, va lui permettre de s'adresser à un public plus large. Et ça se reflète donc aussi dans les résultats et dans la manière dont les gens jouent au jeu. C'est ça qui est exceptionnel. Il faut pas oublier une dernière chose pour conclure là-dessus, c'est que pas, on parlait de Tekken, de tous les autres jeux, mais Street Fighter et Street Fighter 6 restent pas forcément le plus joué, pas forcément le plus vendu des jeux de combat, mais reste le plus regardé des jeux de combat. C'est-à-dire qu'en termes de chiffres, de streaming, de compétition, etc., il est... Alors, Smash Bros, c'est un cas à part, mais c'est pas la même catégorie. On s'entend bien, même Sparking, ça serait un cas à part. Mais en tout cas, dans les jeux de combat classiques, il reste de très loin le jeu le plus regardé. C'est-à-dire que la licence elle-même reste extrêmement puissante.
Olivier ? Oui, parce qu'il faut rappeler que Street Fighter, c'est le grand-père hein, du jeu de combat. C'est-à-dire que c'est pas... On dit qu'on est à l'épisode 6 et que Tekken est à l'épisode 8, mais Tekken a commencé bien plus tard. Et Street Fighter, c'est beaucoup plus étalé dans le temps, les épisodes. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le 6, c'est qu'il y a de l'audace, en fait, dans la manière de le refaire. Ils ont pas eu peur de vraiment tout remettre à plat, de dire on va vraiment essayer de reprendre, donc comme on disait, essayer d'intégrer les débutants, essayer en même temps de répondre à toutes les déceptions qu'il y avait pu avoir sur le 5 du côté des joueurs un peu plus pros. Et il y a aussi ce redesign global, graphique et audio, que je trouve hyper réussi. J'étais pas forcément... ça m'avait un peu surpris au début, en fait, ce côté très hip-hop, très graph, oui. Des choses vraiment qui flashent avec du flou un peu partout et tout ça. Et en fait, quand on rentre dans le jeu, quand on lance pour la première fois le jeu, ça vous éclate à la figure, mais dans le bon sens du terme, oui. C'est magnifique. La BO, elle tabasse. Il y a ces espèces d'intro avec les personnages. Quand vous choisissez votre personnage, il n'y a plus seulement les deux persos face à face. Ils rentrent sur un ring avec des gens qui les acclament, avec des gros beats derrière et tout ça. C'est incroyable. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est très regardé, comme tu disais, c'est que il y a un côté tout de suite impressionnant et compréhensible. C'est que n'importe qui tombe sur un match de Street Fighter peut comprendre ce qui se passe à l'écran, déjà, ce qui est quand même énorme pour de l'e-sport à regarder. Ça aide. Et on voit tout de suite quand il se passe quelque chose, en fait. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir les explications d'un commentateur qui nous dit, là, c'est intéressant parce qu'il s'est passé ça, gna gna. Là, c'est vraiment, le mec fait sa parade parfaite, il enchaîne, on comprend tout de suite, en fait, qu'il est en train de se passer un truc incroyable et qu'il y a un retour en force de l'autre côté. Il y a une remontada. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Et il y a beaucoup d'extraits vidéo, justement, de matchs sur Street Fighter. Je vous invite à aller faire un tour sur YouTube pour voir tout ça. Mais voilà, c'est tout de suite impressionnant, c'est tout de suite compréhensible, c'est tout de suite clair et c'est super joli aussi à regarder. Voilà.
Et justement, parmi ce casting de nouveaux personnages, et même parmi les anciens, qui a eu vos faveurs et pourquoi ?
C'est un peu une réponse de Normand, parce que c'est un nouveau personnage, enfin c'est un ancien personnage mais avec un nouveau design, mais j'adore Camille. Oui. Je trouve qu'elle est aérienne, en fait, dans sa manière de combattre. Il y a quelque chose de très fluide, de très impressionnant, un peu brutal en même temps. Il y a un bon dosage. Et c'est cool, en plus, je trouve, parce que c'est un personnage qui était le deuxième personnage féminin de toute l'histoire de Street Fighter, si je dis pas de bêtises. Le tout premier, c'était Chun-Li, qui était le seul perso féminin du premier jeu. Et c'était un personnage qui était très hyper sexualisé, voilà, avec vraiment un costume près du corps. Enfin, elle était en maillot de bain, quoi, en gros, pendant tout le jeu. Ils le redesign là tel qu'ils l'ont fait. C'est James Bond, c'est une espionne badass. Ça me fait penser, j'ai oublié le nom de ce personnage, mais l'espionne à Cuba dans le dernier James Bond qui tabasse des hommes de main, tout ça. Voilà, Camille, la nouvelle Camille,
c'est ça.
Voilà, merci. Je n'avais plus. Voilà, qui était une super surprise dans James Bond aussi, d'ailleurs, parenthèse fermée. Mais voilà, je trouve que le redesign de Camille et la manière dont elle se joue, c'est super cool.
Reza? Le personnage qui a eu vos faveurs dans Street Fighter 6.
Je vais parler de nouveaux persos du coup, oui. Puisque les anciens on les connaît déjà. C'est Jamie. Jamie, j'ai beaucoup aimé.
Ah, la boxe
même,
de l'homme ivre.
Exactement. Bah déjà, t'as un mix entre la danse de l'homme sous. Faut savoir que moi, je pense être le fan numéro 1 de Jackie Chan dans la FGC. J'ai encore les cassettes à la maison. J'ai même la cassette du défunt René Château avec les plus beaux combats d'art.
Donc j'imagine que aussi de fan de Chun-Li dans Virtua Fighter.
Malheureusement, j'ai pas trop dosé Virtua Fighter. C'est pas un de mes jeux de combat 3D préférés.
Voilà un autre jeu qui mériterait un retour sur Next Gen.
Ah, c'est une carte de sel.
On peut jouer dans Yakuza, je crois.
Oui.
J'ai mes préférences pour Tekken et DOA. Mais du coup, sinon, ouais, VF, je connais, mais j'ai pas trop dosé. Mais du coup, ouais, donc, on parlait de Jamy, excusez-moi. Donc, Jamy, boxe de l'homme sous et surtout aussi breakdance. Donc, j'aime beaucoup le breakdance depuis que je suis petit. On a réussi à faire, je pense, un parfait mix des deux et les incorporer dans les mouvements du personnage, dans ses coups. On a aussi la mécanique où il boit de l'alcool qui va lui donner des niveaux, qui vont lui rajouter des mécaniques de jeu.
Oui, ça marche que dans les jeux.
Que, exactement. Je trouve que c'est
hyper. Ne tentez pas ça chez vous.
Je trouve que c'est hyper bien fait et contrairement à bon, pas mal de monde dans la communauté, au début c'était un peu partagé, moi le redesign street assumé de Street Fighter 6 pour moi il fait totalement sens et j'étais hyper content parce que le jeu s'appelle quand même Street Fighter à la base, il s'appelle Combat de rue, donc ça va pas être combat dans le château de Lily de Monaco et je trouve que voilà, ils se sont dit qu'on va faire une DA, on va l'assumer entièrement, on va aller jusqu'au bout de l'idée et pour moi sur ce point là c'est une superbe réussite. Donc dans les nouveaux personnages amenés avec Street Fighter 6, il y a JP, il y en a d'autres, Jamy pour moi reste mon préféré.
Kayane?
Ah bah, au début c'était Jamy aussi, que je trouve très stylé, très beau, mais là c'est Aki. Aki qui est un des personnages sortis il y a 2-3 mois maintenant. Elle est super stylée,
une empoisonneuse.
Elle fait un peu méchante, elle empoisonne ses adversaires et elle a des combos qui ne sont possibles que si elle a déjà empoisonné l'adversaire. Et ce poison dure un certain temps dans le round, donc elle a des coups qui permettent d'empoisonner et derrière elle peut enchaîner avec de gros combos et faire de gros dégâts que si l'adversaire est empoisonné. Donc c'est un critère qui fait que le personnage est très difficile à jouer, déjà par le fait que ses combos peuvent être bien longs et dépendants en fait de ce critère du poison, mais elle est tellement stylée à jouer avec ses griffes, avec
sa coupe de cheveux
en forme de chapeau d'assassin, c'est vraiment super classe. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment, qui n'aiment pas. Mais en même temps, ça fait partie des paris risqués de Capcom de faire des choses différentes, de créer des personnages assez innovants. Et j'aime beaucoup ce perso. Moi, je joue Chun-Li de base, mais je joue aussi Aki en personnage secondaire. Et les deux sont les personnages les plus difficiles à jouer actuellement dans Street Fighter 6. Donc, j'ai pas choisi les plus simples. Hein, mais en même temps,
Chun-Li.
Si, elle est très dure à jouer. En exécution, elle fait partie des combos les plus chauds du jeu.
Mais Street 6, c'est pas dur. C'est ça, c'est le truc, tu vois.
Mais oh, il faut quand même de bons réflexes. Faut être réveillé quand tu joues.
Oui, c'est pas étonnant. Faut être réveillé, je suis d'accord.
Faut être très vif.
Faut être jeune.
Voilà. Faut être jeune. Faut être jeune.
Bah, alors moi, c'est exactement l'inverse de Kayane. C'est-à-dire que je me suis dit, ça va être lequel le perso, surtout les premiers jours, tu sais, lequel va être le plus efficace, le plus facile à jouer, qui va dérailler les gens qui connaissent
Marissa,
pas. Marissa.
Voilà.
Mais surtout, Marissa, elle a le Spartan Kick, qui est le coup de pied que tu as, pour ceux qui se rappellent, dans la bande-annonce de 300.
This is Sparta.
This is Sparta. Elle a ce coup. Oui. Comment tu veux ne pas la jouer?
Et Marissa, qui est aussi mon nouveau personnage favori, mais pour une raison tout autre, c'est que c'est une femme bodybuildée qui ne répond pas aux critères de beauté habituels. Et je trouve que c'est bienvenu de voir enfin une femme gladiatrice avec, qui a un physique de femme forte.
Et en plus, c'est vraiment cet archétype du perso et il est totalement assumé, donc avec une femme musclée comme dans un personnage de 300, et c'est très bien rendu. Et c'est un perso qui tape très fort. Très fort. Mais par contre, c'est assumé. Elle tape. Alors, à très haut niveau, ça a ses limites, parce qu'évidemment, elle a des défauts que n'aurait pas l'autre
perso. Elle a pas mal de gros défauts.
Elle a des gros défauts. Mais quand, au moins, il y a ce côté jouissif, que, surtout quand t'es pas à très haut niveau, mais même à des niveaux intermédiaires assez hauts, tu peux adorer le perso, parce que, même si tu perds le round, le moindre combo, tu peux faire 80% de barres sur un, si t'as des ressources.
80%, faut quand même tout.
80%,
et encore,
t'es au dernier round.
Et encore, c'est 74.
T'es au dernier. T'as une barre de level, t'as une barre de level 3.
En CA, ouais, c'était la CA,
t'as la CA, t'es en max counter, il te reste plus beaucoup de vie. T'es dans le coin. Alors, ça fait beaucoup 74. De conditions.
Avec le vent dans le dos. Et tu peux gagner.
Alors, c'est vrai que c'est peut-être plus 75% que.
C'est ça, à peu près.
Mais, en tout cas, voilà, il y a ce côté jouissif. Et effectivement, comme disait Kayane, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fonction de ce que vous cherchez, c'est-à-dire ce côté facile d'accès des gros combos, mais que ça, il y aura un plafond de verre, en fait, dans l'utilisation du perso. Ou de perso des plus complexes. C'est ça aussi qui est très intéressant dans les jeux de combat et Street Fighter, d'ailleurs, depuis le début. C'est pour ça que le 2 en 91 avait un tel succès, c'est cette différence entre les persos, ces différences d'archétypes et cette compréhension d'eux, en tout cas par exemple, quand on va sur les persos difficiles, de se dire, c'est comme dans la vraie vie, hein, plus le chemin est compliqué, plus on va apprécier. C'est ça, là. C'est vrai qu'il est difficile d'accès pour les gens dans les jeux de combat, c'est que c'est vraiment un genre de jeu où, pour réellement l'apprécier à son maximum de potentiel, ça veut pas dire qu'il faut faire des tournois, hein, bien sûr, mais ça veut dire y jouer à un certain niveau pour pouvoir l'apprécier et voilà, il y a vraiment ce niveau de...
Oui, et j'irais même jusqu'à dire comme... pour toute pratique du sport, quelle qu'elle soit,
exactement
parce que,
pareil.
Eh ben, il faut y jouer quotidiennement. C'est-à-dire pas forcément longtemps, mais pour qu'un combo soit fluide ou ce genre de choses, bah voilà, mais... 10-20 minutes par jour à s'entraîner un petit peu à le refaire pour pas le perdre et pour que ça soit exactement vraiment quelque chose d'automatique et passer un palier, bah c'est comme si vous vous mettez à faire des pompes, vous en faites 5 un jour, puis voilà, la semaine d'après vous en faites 10 et puis ainsi de suite, et ben le jeu de combat fonctionne avec la même logique et c'est aussi gratifiant.
Mais pour faire le parallèle avec le sport, par exemple, il y a beaucoup de jeux, je prends un Mario Kart. Vous prenez Mario Kart, c'est comme le football. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer à Mario Kart. Vous descendez dans la rue, vous n'avez même pas besoin, vous mettez vos fringues par terre, vous faites un match de foot. Et tout le monde peut jouer très mal au foot. Je joue extrêmement mal au foot, mais vous pouvez rigoler, vous amuser au foot. Mario Kart, c'est pareil. Alors, bien sûr, à très haut niveau, Mbappé, c'est le champion du monde de Mario Kart. Mais il y a un monde entre le champion du monde de Mario Kart et...
Même lui, il le savait pas.
Voilà. Il l'a appris, il a écouté l'émission, il fait, ah bon, je sais faire ça aussi. Non, mais voilà, vous voyez le parallèle. Ça, c'est le football, c'est Mario Kart. C'est génial. Mais comme Smash Bros, d'ailleurs. On peut s'amuser à Smash Bros, même sans savoir jouer. Et c'est génial. Et il y a quand même un vrai haut niveau. Eh ben, les jeux de combat, c'est un peu le tennis. C'est-à-dire que, au début, honnêtement, vous savez pas jouer au tennis, vous prenez une raquette, vous allez pas du tout vous amuser. Mais alors vraiment pas. Mais par contre, quand on commence à bien jouer au tennis, là, on y prend un réel plaisir. Mais c'est pas tout de suite. Et il faut y passer du temps. Alors, ça veut pas dire que l'un est plus facile que l'autre. Pas du tout. Ça veut dire que la courbe d'apprentissage est très différente, avec des niveaux très différents.
Il y a toujours une cause pour laquelle combattre. Vous avez choisi de défier la paix. Vous avez choisi la guerre contre un dieu.
Alors maintenant, on va aborder le jeu de combat qui crée plus de polémiques que les autres, Mortal Kombat, ce Mortal Kombat 1. J'ai pu regarder un petit peu sur le réseau, qui avait été très bien accueilli par la critique. Et puis tout d'un coup, au fur et à mesure, je pense que c'est lié aussi au modèle économique qui est défendu par NetherRealm Studio et Warner derrière, qui a été critiqué. Ben en fait, il y a des gens qui l'aiment moins. Donc Reza, je sais que vous êtes un grand amateur de Mortal Kombat. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas sur ce Mortal Kombat?
Ça dépend par quel niveau, compétitivement ou de manière casuelle.
Même en termes de occasionnelle.
Occasionnelle, pour... ok. Bah du coup c'est un peu, on va pas de manière occasionnelle, on va parler sur le jeu vidéo un petit peu. Sur MK1, malheureusement on a l'impression qu'en termes de fonctionnalité, le jeu a fait un pas en arrière. Tout à l'heure on parlait de rollback avec SNK, et puis par exemple Mortal Kombat, c'est un des premiers jeux de combat qui a ramené le rollback. Enfin il y en avait avant, il me semble c'est Killer Instinct, après GGPO et tout, c'est Killer Instinct en 2013 qui arrive avec le rollback, et Skullgirls aussi. Et derrière nous on a vu le rollback sur Mortal Kombat X, sur une mise à jour en février-mars 2016. Donc on avait déjà un très bon netcode, on avait déjà un très bon mode d'entraînement avec MK11. À l'époque de MK11, Mortal Kombat 11 qui sort en 2019, c'est un peu un des deux meilleurs modes tuto existant sur les jeux de combat. Il y a énormément de choses qui sont bien faites, il y a un crossplay avec la Xbox et tout ce qui va avec. Le problème qui arrive, c'est quand MK1 sort, par exemple, nous on se dit, bah écoutez, dans MK11 en 2019, il y avait déjà un crossplay, donc on va avoir le crossplay complet sur MK1. MK1 sort, il n'y a pas de crossplay. Donc déjà, première douche froide. Bon, il y a le rollback comme d'habitude.
J'explique pour les auditeurs, le crossplay, oui, ça permet de jouer sur des plateformes opposées. Par exemple, si vous avez une PS5, vous pouvez jouer avec quelqu'un qui est sur PC ou sur Xbox.
C'est ça.
Ou Switch.
J'espère pas. Switch, heureusement. J'espère pas.
Pardon, c'était une blague de connaisseur.
Ouais, donc pas de crossplay malheureusement. Le rollback fonctionne, mais pareil, il y a des problèmes sur le online, sur les classés, de désynchronisation des connexions. Bon, on va dire c'est le début du jeu, ça peut arriver. Et derrière, les gens ne s'y retrouvent pas forcément dans le mode tutoriel. Et pas mal de choses qui étaient dans le mode entraînement de Mortal Kombat 11 et X ont été retirées. Donc tu te dis, attends, il y a peut-être un problème. Est-ce que le jeu est pas sorti trop tôt au final? Est-ce que ils avaient fini de faire ce qu'ils voulaient faire? Bon, on se dit tranquille, au final, nous, comme on est là vraiment pour jouer pour les championnats de France et les championnats du monde, on va se concentrer sur le gameplay. Et du coup, le gameplay arrive, le gameplay est top. Il y a un nouveau système, donc les caméos, qui sont le fait de pouvoir appeler des assists pendant les combats.
Personnages qui sont des fois issus d'anciens Mortal Kombat, qui viennent faire un ou deux coups, qui permettent de créer des nouvelles combinaisons. Et par exemple, des personnages qui sont spécialisés dans le corps à corps vont pouvoir un petit peu, par exemple, jouer avec des combats à distance, avec l'aide d'un caméo qui, lui, pourra envoyer des boules de feu. Et voilà, ça ouvre des possibilités pour plein de personnages.
C'est ça, ça ouvre des possibilités pour plein de personnages. Ça permet de compléter le gameplay, pour que ce soit pour les persos qui jouent à distance et persos qui jouent au corps à corps. Et malheureusement, l'équilibrage des caméos, donc de ces fameux assists, n'était pas spécialement bon. Ok, tu dis, c'est le début du jeu, donc on va attendre les fameux correctifs, patch, pour voir un petit peu ce que ça va donner, si les développeurs vont réussir à rééquilibrer le tout. Et malheureusement, sur les trois patchs qu'il y a eu, je crois, les trois patchs sont un peu à chaque fois à côté de la plaque. Ça veut dire qu'on s'occupe de certains problèmes, mais on en oublie d'autres. Donc, je sais pas ce qui se passe en interne. Moi, je bosse pas chez NetherRealm Studio, mais je trouve malheureusement que le suivi du jeu fait partie du gros problème et le pourquoi du comment la communauté est vraiment marche à reculons et se dirige vers d'autres horizons, notamment par exemple Tekken 8. Donc, ça reste un bon jeu à la sortie, mais actuellement, je trouve que le suivi est mauvais. Et aujourd'hui, t'es dans l'ère du numérique, t'es dans l'ère des mises à jour. On parle de jeux en physique, mais le jeu en physique n'existe plus, parce que même quand t'achètes un jeu en physique, t'as la mise à jour Day One qui va te faire 20 gigas ou 15 gigas parfois. Donc, tu peux pas te planter sur le suivi d'un jeu, surtout d'un jeu de combat. Et je trouve que c'est là que NetherRealm, malheureusement, était mauvais et qui fait qu'ils ont mangé quand même pas mal de balles sur Internet.
Alors qu'en plus, ils ont quand même une politique de personnages additionnels. Il y a Omni-Man d'Invincible, le comic book de Robert Kirkman et de la série aussi du même nom sur Amazon Prime. Ils ont réintroduit Quan Chi. Là, on vient de voir arriver Peacemaker. En attendant Homelander de The Boys pour le milieu d'année. Donc en fait, il y a quand même un casting de stars qui justement fait défaut à d'autres jeux et même avec ça, ça l'a pas fait.
Bah si, parce qu'au final, c'est pour ça que le jeu marche. Encore une fois, c'est des trois jeux dont on parlait, c'est le jeu de combat le plus vendu. Donc les gens l'achètent, les gens y jouent, mais après le problème, c'est quand t'as un mauvais suivi, en fait, les gens ne vont pas y jouer sur la durée. Et le but d'un jeu de combat, c'est que les gens restent. Tu vois, c'est assez différent de quand t'achètes par exemple ton jeu solo, PlaySolder, Death Stranding, tu fais le mode histoire et c'est fini, tu passes à autre chose. Le jeu de combat, non, faut vraiment que tu joues sur la durée, que de temps en temps tu le relances avec les copains, que de temps en temps tu refasses du online. Et quand t'as un mauvais suivi, les gens ne restent pas sur la durée. Donc le problème, il va être là. Donc le jeu a quand même été un succès, donc il s'est super bien vendu et il se vendra bien. Tous les derniers Mortal Kombat se sont tous vendus de manière vraiment stratosphérique. Et le suivi, malheureusement, est le gros problème. Donc, si ça ne s'arrange pas de ce côté-là, ça va être compliqué.
Kayane, votre avis sur Mortal Kombat ?
Mortal Kombat, c'est toujours une saga que je joue pour le fun, en mode solo, et après jouer une semaine en match en ligne. Le truc que je trouvais dommage avec Mortal Kombat 1, c'est que d'habitude, Warner Bros. Et NetherRealm Studios, c'est vraiment le combo qui fait que ils mettent les moyens, ils ont tout ce qu'il faut pour que ça marche, ils ont les licences, ils ont les personnages invités qui vont venir d'autres univers et qui vont compléter le roster, et qui fait que ça va marcher auprès du grand public. Et en plus de ça, ils ont toute cette technologie de matchmaking, de rollback, netcode, qui font que c'est un jeu qui va marcher et être en avance sur tous les autres jeux de combat. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il est vraiment en retrait par rapport à tout ce que a proposé Street Fighter 6 et Tekken 8, alors que d'habitude, Mortal Kombat, c'est vraiment la voie à suivre. Et je trouve ça vraiment dommage, puisque Mortal Kombat, c'est vraiment un jeu qui se vend très très bien. T'as Warner Bros. Derrière, donc niveau sous, je me dis qu'il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai trouvé Mortal Kombat 1 assez décevant. Le mode histoire est incroyable. Hein. J'ai passé 4 heures.
Et puis le jeu reste très très beau. Attention, parce que
il est très beau. Graphiquement, vraiment très beau. Mais moi, comme je le vis vraiment en mode aventure à vivre solo, j'ai fait le mode histoire, c'était incroyable. Et derrière, je me dis, oh, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le mode invasion. C'est une sorte de jeu de loi vu d'au-dessus où tu te déplaces de case en case. Et je me dis, peut-être qu'à travers ce mode-là, je vais vivre l'aventure des personnages qui sont disponibles. Bon, en fait, à part quelques visuels, artwork qui va t'expliquer l'histoire de Sub-Zero, de Scorpion, il n'y a pas grand-chose de vraiment très utile.
Histoire qui a été complètement remanié, parce que c'est un reboot d'un univers, pour ceux qui avaient terminé Mortal Kombat 11.
C'est une suite reboot, en vrai, il y a quand même
mais voilà, disons qu'il y a une histoire de multiverse, de jeu, de temporalité qui a été réécrite par Liu Kang, désormais le dieu du feu. Et c'était très malin de relancer l'univers Mortal Kombat de cette manière, avec une surprise sur des figures déjà connues. Un nouveau Scorpion, nouveau Sub-Zero.
C'est vrai que pour pour ceux qui comprennent pas trop l'histoire de Mortal Kombat et qui débarquent, en fait, chaque jeu de combat aujourd'hui se demande comment attirer une nouvelle base de joueurs. Et Mortal Kombat 1 s'est dit, on va reboot un petit peu la timeline et tout. Les rôles des personnages sont un peu redistribués. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de contenu solo pour pouvoir vraiment apprécier le jeu peu après sa sortie. Enfin, qu'on a fait le mode histoire, le mode invasion, il ne reste plus grand-chose à faire. Alors que dans les autres jeux de combat,
il faut attendre les personnages invités, justement, pour avoir de nouveau un petit intérêt à y retourner.
Et même les personnages, c'est décevant de les retrouver juste en caméo. Mmh. Et je pense que quand je streamais, en tout cas, les joueurs me disaient « C'est scandaleux, tous les personnages avant, ils étaient disponibles dans Mortal Kombat 11. Et maintenant, on a nos préférés, ils sont en caméo, c'est trop triste. » Et il n'y a pas beaucoup de personnages disponibles dès le début. Et quand tu te dis que les autres ils sont disponibles en caméo avec un ou deux coups par perso, c'est un peu triste.
Olivier Bénis,
Je rejoins ce que disait Kayane sur le côté effectivement le. En fait, je trouve que des trois dont on parle, Mortal Kombat, c'est un peu le paresseux de la bande, quoi. C'est celui qui s'est dit, on va capitaliser sur la stratégie marketing habituelle, c'est-à-dire Mortal Kombat, tout le monde voit ce que c'est, il y a eu un film, il y a eu 15 000 épisodes, c'est le jeu dont tout le monde parle, parce qu'à l'époque, c'est celui qui a défrayé la chronique, qui a été accusé de favoriser la violence chez les enfants et les ados et tout ça. C'est quand même le jeu vidéo qui a poussé à la création de l'ESRB.
Fatalité de cet opus qui sont... Ouais. Splendide,
ouais,
splendidement graphique.
Voilà. Et le truc, c'est que je trouve ils ont gardé cette stratégie marketing du faut un peu choquer, faut un peu ramener les personnages qu'on connaît, mais faut pas non plus perdre les nouveaux joueurs. Donc faut leur réexpliquer qui c'est, ce qu'ils font dans l'univers. Donc effectivement, le côté multivers reboot marche bien pour ça. Et après, c'est l'épisode où en fait quand on le ramène à la maison, qu'on commence à y jouer. Si on dit oui, j'y ai déjà joué en fait. Il y a quelques nouveautés, mais c'est cet effet un peu waouh qu'il peut y avoir sur Street Fighter 6 ou Tekken 8, où tout de suite en lançant le jeu on se dit ah oui c'est un nouveau, c'est pas juste l'ancien. Et vraiment à part le changement de marque entre guillemets et le changement d'univers, bon, ils se reposent un peu sur leur laurier sanglant certes, mais sur leur laurier. Moi j'étais un peu déçu par rapport à ça, sur le côté on voit la stratégie marketing, ça va se vendre sans problème parce que c'est un Mortal Kombat et que c'est l'achat facile entre guillemets quand on aime bien les jeux de baston et qu'on veut avoir le dernier épisode sur sa console, mais ça n'impressionne pas. C'est qu'il n'y a pas ce côté ils ont vraiment refondu le truc, ils ont vraiment réfléchi à comment faire pour faire entrer pleinement cette licence dans la décennie 2020, quoi. Et voilà, donc c'est vrai que c'est graphiquement splendide, enfin ça marche très très bien. Il y a toujours tout ce qui fait qu'on aime Mortal Kombat, mais il n'y a rien de vraiment en plus, quoi.
Et j'ai le sentiment que c'est... Parce que là, c'est la même erreur a été commise, mais sur un jeu qui n'est pas forcément un jeu de combat, mais Suicide Squad, Kill the Justice League. C'est l'idée, comme pour ce Mortal Kombat, d'avoir l'arrogance de penser que les joueurs vous appartiennent et vont rester. Et vont rester pour avoir deux, trois décorations cosmétiques.
Ce qui, en soi, n'est pas faux, parce que ça marche. Donc,
ça reste un peu différent, je trouve, là, que l'exemple, je sais pas s'il est bien pris, parce que du coup, j'ai dosé les deux jeux. Sous cette quad skill de Justice League, c'est juste nul. Il n'y a rien qui est bien fait. Mortal Kombat 1, il y a quand même pas mal de différences le 11, et là où ils pêchent, ça va être surtout sur l'avance qu'ils avaient en termes de technologie, ils la perdent. Donc je trouve que c'est un peu dur quand même de le ramener à Suicide Squad, parce que Suicide Squad, vraiment, j'ai fait le test et c'est il y a rien à prendre, à sauver en fait, quoi, derrière, carrément.
Si, moi j'aime beaucoup les cinématiques et l'animation des visages.
Justement, c'est les cinématiques qui m'ont fait arrêter le jeu, parce que j'ai envie de jouer. Et malheureusement, sur le jeu, on avait fait une bonne session de 3 heures en stream, et le moment où on avait le plus joué, c'était pendant le tuto. Sinon, après ça, on se fait interrompre toutes les 10 minutes, c'est tout ce que je déteste dans le jeu aujourd'hui, mais bon. Mais pour revenir à Mortal Kombat, ouais, effectivement, moi ça va être surtout tout ce qui est technologie. Où on avait de l'avance et cette fois-ci on se retrouve en retard, et puis bon, on se dit qu'ils vont faire mieux sur le prochain opus. En tout cas, c'est pas grave, parce que MK11, MKX et MK9, donc ça reste quand même 3 jeux sur une décennie, ont tous été excellents. Pour moi, selon moi, en termes de jeux vidéo, en compétitive,
j'ai moins aimé MK11. Celui-ci reste bon,
j'ai quand même aimé. Et là, ouais, c'est vrai que plutôt, j'ai envie de dire, je pense que c'est aussi parce que Mortal Kombat était quand même dans l'excellence sur pas mal de trucs, qui aujourd'hui se font taper dessus aussi fort. Parce que par exemple, Street 5, qui était vraiment catastrophique, ne s'est pas fait autant taper dessus qu'MK1, alors qu'il a fait bien pire qu'MK1, par exemple.
Oui, et puis la manière de s'exprimer sur les réseaux aussi a évolué. C'est-à-dire qu'on passe très vite de « Oh, ce film, c'est le film qui m'a redonné la vue, qui m'a fait repousser les cheveux. Ah, mais celui-ci, franchement, il insulte mes parents sur 29 générations. » On est dans l'emphase et l'hyperbole très, très, très...
C'est pas que MK1 est pas bien, c'est que cette année, en face, il a Street 6 et Tekken 8 qui sont de très bons crus.
Exactement.
Ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque.
C'est vrai.
par rapport, alors Tekken 7 est déjà très bien, mais Street 5, Tekken par rapport au MK10, MK11, en termes de, encore une fois, c'est pas une question de goût, c'est une question de finition du produit. Voilà.
Pour clôturer cette émission, restons toujours sur les jeux de combat, parce qu'on en a parlé des stars, mais l'univers du jeu de combat est tellement divers et varié qu'il y a d'autres outsiders très très intéressants. Et en dehors de ces trois gros titres, quel jeu de combat a eu vos faveurs et que vous aimeriez voir prospérer, être découvert par le plus grand nombre ?
Faut que les gens, ils entendent vraiment parler, ils le connaissent déjà, mais ils entendent parler du nom Arc System Works, hein. Oui. C'est un super développeur. Alors, c'est marrant, ils avaient commencé même par des jeux Sailor Moon sur Super Famicom, qui étaient très bons, des jeux de combat. Mais, Arc System est très connu pour sa saga des Guilty Gear.
Dragon Ball Fighter aussi.
J'allais y venir. Donc, ils ont fait Guilty Gear Strive, hein, qui est un peu aussi pareil, une sorte de reboot, révolution de Guilty Gear, mais qui était très bien, quand même, avec des, voilà, un rollback, etc. Et je pense, c'est les développeurs derrière Dragon Ball Fighters, qui, quand on est fan de Dragon Ball et de jeux de combat, c'est genre le messie. Quand on est gamin, on se dit, on imagine, les gars, ils feraient un jeu de combat, c'est exactement ce qu'il fallait faire, Dragon Ball Fighters, le meilleur jeu Dragon Ball de l'histoire, hein, bien sûr. Et c'est aussi, par exemple, ils avaient fait un Hokuto no Ken en 2005 en arcade, qui est un jeu un peu fou, mais qui, en termes de respect de la licence, c'est exceptionnel. Pour ça que dans les jeux de combat, on dit toujours, imagine si eux, ils faisaient un One Piece. Si eux, ils faisaient un Jujutsu Kaisen, là, si ces gars d'Arc System. Et bref, Arc System, entre autres, ils font aussi la saga des Grand Blue. Alors, c'est pas un jeu de combat, c'est une licence japonaise, une IP, où ils font plein d'autres choses. Mais il y a Grand Blue versus Rising qui est sorti cette année, qui est la suite de Grand Blue versus, et qui est très beau, qui est extrêmement magnifique. Facile d'accès, extrêmement sympathique.
Avec un personnage invité, Tubi, de Nier Automata.
Ah, ça fait plaisir, ça.
C'est un jeu, pour le coup, c'est vraiment le jeu, vous pouvez jouer, il y a un mode facile, c'est un jeu qui est ultra plaisant, ultra jouissif, on n'y passe pas forcément sa vie, mais qu'est-ce qu'on s'amuse, et ça fait du bien de se dire, puis d'un point de vue techno, en termes de représentation de la 2D, alors c'est de la 3D, mais qui ressemble un peu à la 2D, c'est la techno d'Arc System, qu'on voit dans Fighters, qu'on voit dans Strive. Pour moi, même ce que font, c'est encore bien plus impressionnant que ce que font Capcom et Bandai Namco, en fait. En termes de rendu, en fait, c'est des fous ce qu'ils font. Voilà, tous les jeux
Guilty Gear Strive, on est passé assez rapidement dessus, mais il est incroyable visuellement,
si vous voulez jouer à un animé japonais, Guilty Gear. Si vous avez l'impression de jouer un épisode de Dragon Ball Fighter, vous avez l'impression de jouer un épisode de Dragon Ball, quoi.
Après, voilà, c'est des jeux moins connus, moins grand public, évidemment, qu'un Tekken. Mais pour le coup, en Grand Blue, alors c'est le jeu le plus facile d'accès du monde, hein, et on peut s'amuser très très vite. Voilà, c'est des petits jeux comme ça, je recommanderais. Si vous aimez, alors évidemment, si vous avez en plus des affinités avec le manga, l'animation japonaise, les JRPG, vous allez avoir autant plus de facilité d'accès à rentrer, c'est vrai, dans ces univers qui sont plus pop culture japonaise. Qu'un Tekken où il y a Victor Chevalier.
Kayane ?
Pareil, je rejoins Guillaume. Je trouve Grand Blue Fantasy versus Rising absolument incroyable à jouer. Moi qui adore tout ce qui est animé, j'ai vraiment l'impression de contrôler des personnages d'animé et de vivre mon animé, quoi. Donc c'est vraiment un jeu que je recommande, d'autant plus que le RPG japonais est sorti, Grand Blue Fantasy Relink.
Oui. Donc, qui est très, très, très agréable à jouer aussi.
Très agréable à jouer, très épique. Oui. Voilà, il n'y a pas de grandes prétentions. C'est un peu une sorte de Monster Hunter où tu vas combattre à quatre et affronter des boss et des gros monstres. Mais c'est génial à vivre. Et en même temps, si vous voulez prolonger cette aventure et vous battre avec les personnages dans un jeu de combat, ils sont tout aussi beaux dans le jeu de combat. Donc, c'est un jeu que je recommande. Vous avez un mode histoire, vous avez des bons tutos, des personnages stylés. Moi, quand je ne joue pas à Street Fighter ni Tekken, je joue à Grand Blue.
Haza?
Oui, alors moi j'ai deux jeux que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, qui sont sortis en 2012 et 2013 respectivement, auxquels je joue encore de temps en temps. C'est Skullgirls, dont j'ai parlé tout à l'heure pour
évidemment,
le rollback, qui est un excellent jeu dev par Mike Z. Donc Mike Z, qui était un grand fan de Marvel vs Capcom, qui voulait faire un peu sans Marvel vs Capcom, mais bien, avait décidé de faire du coup Skullgirls, qui est un jeu de combat par équipe, mais auquel tu peux choisir le nombre de personnages que tu veux jouer. Donc ça peut être un jeu 3v3, mais tu peux jouer seulement deux personnages, et tu peux jouer seulement un personnage aussi en solo, et du coup les barres de vie vont être ajustées. C'est aussi un jeu de combat qui révolutionne dans son côté à l'époque où il sort, parce que au niveau des assists, tu ne choisis pas forcément une assist, mais tu choisis
un coup du personnage que tu veux mettre en assist. Donc c'est beaucoup plus précis. C'est aussi un des premiers jeux qui a un mode training hyper complet. À l'époque où il sort, pareil, il reste le meilleur tuto pendant pas mal d'années côté jeu de combat. Aujourd'hui, c'est un jeu qu'on peut retrouver partout assez facilement à 2-3 €. Donc je recommande vraiment aux gens de foncer dessus. Animation à la main. Oui. Tout est super bien fait, tout est super propre. C'est un des jeux les mieux animés, un des plus beaux jeux actuellement toujours. Et derrière, bah, Killer Instinct. Killer Instinct qui est un de mes jeux préférés de mon enfance de base, qui était ressorti en 2013 après sur Xbox. C'est un jeu, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Combo Breaker. Donc soit tu l'aimes pas parce qu'il y a tout le système de Breaker autour. Mais pareil, c'est un jeu qui a un excellent tuto qui te permet vraiment d'apprendre le jeu assez facilement. Ça reste un des jeux aussi les plus accessibles en jeu de combat.
Et qui est, il est disponible sur le Game Pass. Game Pass en version HD. Vraiment.
Non, sur Game Pass, t'as la version complète. Sur Game Pass,
c'est la version complète.
C'est ça.
Qui est sorti pour les 10 ans.
Et si t'as pas le Game Pass, t'as une version free play avec une rotation de personnages. Donc Skullgirls et Killer Instinct.
D'ailleurs, Grand Blue Rising, c'est important de le dire, parce que, juste petit détail, mais tu as une version free play, une version gratuite, avec rotation des personnages. Donc, c'est, par exemple, c'est un jeu que vous pouvez tester gratuitement. Voilà, c'était juste, c'est vrai que c'est un petit détail.
C'est vrai, c'est important.
Olivier,
Je vais en avoir un très connu et un peu plus obscur et oublié, mais qui me manque terriblement. Le premier, c'est King of Fighters. Je trouve que les derniers épisodes sont vachement bien. Il y a eu des petites polémiques sur le passage de la 2D visuellement à la 3D, notamment sur l'aspect des personnages. Moi, je trouve que sur le dernier, sur le 15, c'est super réussi. Ça marche très très bien. C'est un jeu pour vous situer où on joue à 3 contre 3. Donc à chaque fois que vous choisissez 3 personnages, du coup, il y a un énorme panel de personnages disponibles quasiment dès le début. C'est super joli à regarder. C'est pas effectivement aussi impressionnant qu'un Tekken ou qu'un Street Fighter 6, mais ça marche vachement bien. Et c'est à la fois très sympa à jouer pour des petites sessions avec des gens sur le canapé et pour vous entraîner un petit peu parce qu'il y a quand même des petites subtilités un peu techniques qui sont très cool et je l'aime beaucoup. Et un autre beaucoup plus vieux mais que j'adorerais voir revenir avec les technologies d'aujourd'hui, c'est Bushido Blade. C'était une série de deux jeux sur la première PlayStation. Ouais, mais je l'adore parce que c'était un jeu où en gros le concept c'est comme Soul Calibur, vous avez des armes, des choses comme ça, sauf que les armes ont un effet réel, c'est-à-dire que si vous faut être touché, vous êtes mort. Et donc les parties peuvent durer soit très longtemps, si vraiment vous courez un peu partout, soit très très courte. Mais en gros, la moindre erreur peut être totalement fatale, c'est-à-dire que si vous tapez dans l'épée, et surtout, il y avait une gestion physique des armes elles-mêmes, ce qui fait que quand elles s'entrechoquaient, il y avait vraiment un effet de recul de l'arme qui ouvrait, du coup, la garde de l'adversaire. J'adorerais voir une version de Bushido Blade sur PS5 ou Xbox.
Il y a un jeu qui sort bientôt, oui. Je crois, c'est Die by the Blade, oui. Ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui est annoncé depuis pas mal de temps, et c'est un peu, je pense, ton Bushido Blade.
Avait un petit peu cet aspect-là aussi, je trouve. Enfin, c'était pas de la baston pour le coup, mais
Samurai Shodown aussi.
Et moi, je vous invite, si jamais vous avez l'occasion de faire des jeux qui sont pas très très vieux, mais justement pour se consoler de ce dernier Mortal Kombat, il y a le Injustice 2 que moi. Alors il y a Reza qui fait Grismin, mais moi je suis désolé. Les Tortues Ninja et Hellboy,
Même moi, je kiffe les personnages.
Mais j'étais.
Mais le jeu est horrible.
Non, je suis pas d'accord. Donc vraiment, alors vous pouvez l'essayer et ensuite vous envoyer un message soit à Reza soit à moi disant voilà. Ouais, t'avais raison, soit non, t'avais complètement tort. Et l'autre jeu évidemment, c'est Marvel versus Capcom 2. Pour moi, c'était voilà, je ne sais quand la perfection existe, pourquoi vous voulez casser ce qui était pas cassé quoi. Enfin, réparer ce qui est pas cassé plutôt. Donc moi j'attends vraiment un Marvel versus Capcom 3. Tous, je ne compte pas Infinite là.
Non, Infinite existe.
J'ai un jeu craqué de fou qui était conseillé par monsieur Karaté qu'on dédicace. Je vous le conseille parce que je viens de retrouver, il me l'avait. C'est un jeu, si vous avez la Nintendo Switch et que vous avez accès aux jeux NES, vous avez les jeux NES sur Nintendo Switch avec le online, il y a un jeu qui s'appelle Joy Mech Fight. Qu'un jeu, des rares jeux développés par Nintendo. Ils ont fait un vrai jeu de combat sorti en 93-94 sur Famicom, donc sur Nintendo. Et c'est exceptionnel. C'est gratuit, c'est sur le online Nintendo. Joy Mech Fight. Et se marrer en famille. Voilà.
Merci beaucoup, merci Kayane, Guillaume, Reza, Olivier Bénis. C'est la fin de cette émission et c'est une émission qui a été réalisée par Charles de Cilia. Elle a été préparée par Lisiane Larbani et à la technique aujourd'hui, on le remercie également, Jérôme Ragano. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, le répondeur de l'émission, ou parler directement avec moi sur Instagram, Frédéric Siris, c'est facile. Et on se retrouve dans 15 jours pour le sujet. Ben, je ne sais pas parce que j'ai pas encore choisi. À bientôt. You win. Perfect. Blockbuster est un podcast original de France Inter.